Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Un invité du jour.
Eh bien, salut Léo.
Salut les extraterriens du coup.
Comment ça va?
Très bien, de retour de Sardaigne, un petit peu cassé mais voilà, on va prendre le temps de se reconstruire.
Ouais, tu m'avais dit que la course du coup de ce week-end avait été éreintante, t'as essayé une stratégie hyper offensive, t'es parti sur le vélo tout seul et puis malheureusement ça a pas payé mais du coup tu t'es bien cramé quoi.
Ouais c'est ça, ouais. ça m'a bien cassé les jambes mais ça a pas payé cette fois, mais on réessayera une prochaine.
Ouais, exactement. Il y a pas d'échec avec des apprentissages, comme
c'est
on dit.
Ça.
Mais écoute, en tout cas, félicitations parce que tu fais quand même sixième place. C'est quand même pas mal de faire un top 10, tu vois. Bon, maintenant, ça va te sembler naturel, mais il faut aller les chercher et faut être constant aussi, quoi. Donc,
j'ai sauvé les meubles, mais c'est vrai que l'année dernière, j'aurais déjà signé pour une sixième place. Donc voilà, il faut savoir aussi apprécier, ce résultat.
Ok. De toute façon, on va parler un peu de cette progression hyper constante, tu vois, que je vois. Comme je te disais, moi je suis un peu plus vieux que toi, mais du triathlon j'en fais depuis mes 22-23 ans, tu vois. Donc ça va bientôt faire 10 ans, tu vois. Bon, après j'ai pas été toujours au taquet là. Ça fait 3-4 ans que je roule plus du tout.
On va s'y remettre.
Ouais. Mais j'attends que vous me repassiez le virus là. mais du coup ouais, moi je t'ai vu progresser hyper longtemps. Donc on va regarder un peu tout ça, tu vois. Mais comme je te dis, il y a une tradition auquel aucun champion ou championne ne manque sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Je pense que ça remonte à la Nouvelle-Calédonie, à mon enfance. C'est à cet endroit-là que j'ai été vraiment immergé dans la nature, dans les grands espaces. Donc soit sur l'eau quand j'ai fait un petit peu de voile, planche à voile, optimiste et tout ça. Quand on est petit, c'est quand même ouais. c'est vraiment top pour débuter. Et puis sinon c'était plus du battle, du hip hop, du breakdance et tout ça.
Ouais.
Avec les copains, donc voilà, j'avais environ 7-8 ans et ça a commencé comme ça, même si avant j'ai touché un peu à tout.
OK. T'avais des parents très sportifs ?
Ouais, j'ai des parents qui pratiquent encore aujourd'hui beaucoup de sport, du triathlon, du trail, toujours en nature quoi, et en fait c'est vraiment eux qui m'ont donné ce goût de de l'effort déjà, et puis ce respect de la nature, apprécier d'être dehors, quoi, en fait.
Ouais, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se retrouve souvent dans, quand on t'écoute et quand on lit un peu tes mots, le plaisir d'être dehors dans la nature, ça fait partie vraiment de ton ADN propre, quoi.
Ouais, c'est vrai que même si des fois pendant certaines préparations spécifiques, il faut que je m'enferme dans une salle pour faire du home trainer ou autre chose moins marrant, et ben c'est pas là que je trouve vraiment ma motivation, et je la trouve plutôt quand je suis en train de faire des cols dans la montagne ou où je suis en train de nager en mer, que en fait j'en prends plein les yeux. C'est vraiment pour ça que je fais du sport à la base.
Ouais, ok. Et d'ailleurs, ça te chagrine pas un peu que le triathlon un peu en tout cas sur la WTS, il y a essentiellement des formats, je trouve, très urbains. Il y a beaucoup de courses en ville de plus en plus,
ouais,
notamment pour attirer du public, aussi parce qu'il y a des facilités logistiques. Ça te chagrine pas un peu? Est-ce que c'est justement ça qui t'a donné un peu envie d'explorer différents formats? J'ai vu que tu avais fait Lanzarote il y a un petit moment, donc...
C'est vrai qu'on peut pas tout avoir au niveau du court distance.
Ouais.
On est forcément obligé de passer par des grosses villes, parce que c'est souvent les villes qui ramènent le budget pour organiser ces gros événements. C'est des contrats qui sont signés directement avec les villes en général.
Ouais.
Et donc forcément, on va pas aller se mettre à 50 ou 100 km du centre-ville. Le but, c'est aussi de promouvoir la ville qui accueille un gros événement comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas là où on en prend le plus à plein les yeux, quoi.
Ouais.
Mais voilà, ça donne aussi des tracés des fois qui sont particuliers. Il y a peut-être des pavés, il y a des virages, il y a un peu de technique, c'est ce qui rend aussi notre discipline un peu particulière, quoi.
Ouais, t'as raison, ouais. Mais écoute, on pourra reparler un peu de tes courses favorites et des parcours que tu préfères un peu plus tard. Mais ça m'a marqué ce que t'as dit. Donc t'as parlé de la Nouvelle-Calédonie. Donc tes parents, si je me souviens bien, ils y sont allés quand toi t'avais 7 à 10 ans, c'est ça à peu près?
Ouais, c'est ça. Ouais, on est parti sur l'île de Lifou. Donc c'est un archipel, la Nouvelle-Calédonie, et donc on est arrivé sur l'île de Lifou quand j'avais 7 ans, et on est reparti quand j'avais 10 ans. Donc ma mère a demandé sa mutation. Elle était prof là-bas.
Okay.
Donc pour un enfant, grandir et puis se développer en Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment pas mieux, quoi. C'est un terrain de jeu incroyable.
Ok. T'en retires quoi, tu vois, hormis de l'expérience, peut-être de la nature, effectivement, comme je te disais, moi, je connais bien la Martinique, et il y a un peu la même sensation, tu vois, où tout le monde sait nager. Bon, il fait très chaud, donc le sport, c'est une culture à part, tu vois. Mais t'en retiens quoi, toi, de ces années-là, si tu devais regarder en arrière, hein, tu te dirais, qu'est-ce qui t'a enrichi le plus?
Ben, je pense que c'est surtout une expérience humaine.
Ouais.
Parce que ce qui me marque le plus, c'est le partage entre les gens. Donc ça peut être à plein de niveaux différents, mais je raconte souvent cette anecdote. Quand on est arrivé là-bas sur l'île, on s'est fait accueillir du coup par la tribu dans laquelle on allait vivre pendant 3 ans.
Okay.
Et donc il faut faire coutume quand on arrive là-bas, et la coutume, c'est un discours de bienvenue par le petit chef de la tribu. Et en fait, nous, on se doit d'amener un bout de tissu avec... on met un billet, voilà. On met ce qu'on veut dessus. On met 50, 100 euros.
Okay.
On met vraiment ce qu'on veut. Et en fait, il y a des membres de la tribu qui vont se faire passer ce bout de tissu avec le billet dessus, et qui vont nous faire un discours de bienvenue à leur tour. Et s'il y a quelqu'un, à un moment donné dans sa vie, qui est dans le besoin financièrement... ce jour-là, il a le droit de prendre le billet.
Okay.
Et en fait, personne lui en voudra, parce que voilà, s'il l'a pris, c'est qu'il en avait besoin, et personne n'est jaloux. Et donc, si on compare ça avec une situation identique en France, en France métropolitaine, je pense que le premier qui a le billet, il saute dessus, quoi.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est vrai que je retiens ça, c'est le partage, c'est le respect des autres, et qui est démultiplié là-bas, même si en France il existe aussi beaucoup, mais là-bas c'est vraiment amplifié, quoi. Le fait de vivre sur une petite île comme ça, je pense que ça crée des liens forts entre les individus.
Ouais, bien sûr. Et puis ça soude les gens. Il y a un, des valeurs communes qui sont beaucoup plus proches, tu vois, de d'une famille à une autre, tu vois, j'imagine, donc.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, par exemple, mes parents, ils me voyaient pas pendant 3 jours. Ouais. Ils s'inquiétaient pas parce que j'étais dans la tribu, quoi. Là, tu vois pas ton gosse pendant 3 jours, tu commences à appeler de l'aide, hein, je pense, au bout d'un jour, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un mode de vie qui est complètement différent, et je pense que voilà, quand t'es gamin, bah c'est juste le paradis, quoi.
Ouais, bah clairement. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi je connais bien du coup la Thaïlande, et en Thaïlande, ouais, effectivement, t'as exactement la même dimension du village, de la tribu. C'est le tout le monde, en fait, les enfants sont les enfants de tout le monde, tu vois. C'est pas l'enfant de la maison d'à côté ou quoi, c'est voilà, c'est les enfants de la tribu, et tout le monde s'en occupe, et tout le monde fait à manger pour tout le monde, tu vois. C'est particulier.
Ouais. Ouais, bah on peut pas avoir le même mode de vie ici non plus, hein. C'est en fait, il faut pas chercher à retranscrire tout ce qu'on a ailleurs, ouais. mais par contre, c'est vrai qu'il faut peut-être s'en inspirer il faut peut-être s'inspirer de certaines qualités qu'on retrouve là-bas, quoi.
Ok. Bon bah écoute, cool. C'est hyper plaisant à attendre. Tu vois, moi la première fois que j'ai entendu parler de la Nouvelle-Calédonie, c'était en cours d'histoire, pour citer des événements pas hyper joyeux, tu vois. Ouais. Et alors ça remonte. J'ai oublié les dates et tout, mais tu vois, c'est quelque chose que tu ressens plus du tout aujourd'hui. Enfin, en tout cas, toi, dans tes souvenirs d'enfant, t'as pas eu de souvenirs justement de problèmes effectivement entre différentes, je sais pas comment on pourrait dire,
communauté
ou, ouais, voilà. Tout simplement. Ouais.
Bah, en fait, il y a donc là-bas, les locaux, c'est les Kanaks.
Ouais.
Et nous, bah, on était des petits blancs qui arrivaient de métropole. Et ouais, en fait, ça s'est très bien passé, parce que on a été intégré directement à la tribu, ouais. Et bah on était vraiment ouvert à ce partage entre les locaux et nous, et donc bah enfin c'est vrai que moi j'ai aucun souvenir négatif de ces échanges qu'il y a pu avoir pendant 3 ans. C'était trop enrichissant, en fait, et il y a jamais eu de la méchanceté, de la jalousie ou quoi que ce soit, et aujourd'hui je reçois toujours des messages des Kanaks là-bas qui me disent ouais, on est fiers de toi et tout, ils suivent tous les résultats, et donc voilà, je sais que j'ai encore une partie de moi qui est là-bas parmi eux, quoi.
Ouais. Bon bah je pense que tu prévois d'y retourner un de ces quatre, et d'aller revoir les potes. T'as pu y retourner du coup depuis tes 10 ans ou...
Non, j'ai jamais pu y retourner, parce que c'est quand même le bout du monde, quoi.
Ouais.
Mais bon, de toute façon, j'ai interdiction de me marier sans y être retourné. Ils m'ont dit tu dois revenir avant de te marier, quoi.
Avec madame pour présenter avant l'autorisation.
C'est ça.
Ok. Bon bah trop cool. C'est une belle histoire en tout cas. C'est trop chouette, et puis humainement, je pense que ça fait grandir, quoi. Ça rend humble de rencontrer d'autres cultures. Effectivement, tu vois, ce dont t'as parlé sur le partage, trop chouette. Et du coup, là-bas, c'est le breakdance le sport le plus pratiqué, quoi.
Ouais, c'est le breakdance, le sport national, et donc à toutes les soirées, enfin, ou même en journée, enfin, dès qu'il y a un regroupement entre jeunes, bah ça part en battle.
Ok.
Mais, c'est des battles de danse, du coup, et donc on a de la on a du hip hop, et c'est énorme. J'ai des souvenirs de battle. Bon, maintenant je sais plus rien faire quasiment, mais dommage, j'ai pas gardé le rythme dans la peau, mais ouais, j'ai des super souvenirs là de battle où ça s'affronte, mais enfin on donne tout, mais c'est complètement différent de ce que je peux faire maintenant en triathlon, mais on là-bas on donnait le meilleur de nous-mêmes aussi, mais notre moyen d'expression, c'était la danse, et donc voilà, ne me demandez pas de danser, parce que c'est plus comme avant, quoi.
Plus de pirouettes sur la tête.
C'est ça.
Ok. Mais tu vois, je savais pas du tout ça de toi, tu vois, en faisant les recherches et tout, et c'est original, je trouve, d'avoir une approche par le sport un peu comme ça, quoi.
Ouais, bah c'est pas vraiment de la compétition, quoi. C'est plus, enfin, voilà, pour moi, la danse, le hip-hop et tout ça, ouais, c'est vraiment, c'est de la compétition, mais c'est une approche complètement différente. Ouais. Et c'est plus un art, je trouve, que de la compétition comme on peut faire actuellement en triathlon. Enfin,
ouais.
Je dissocie vraiment les deux, mais par contre, le point commun, c'est que on se défonce vraiment sur soit sur la piste de danse, soit sur sur le tapis bleu en triathlon, quoi.
Ok, mais ouais, trop super chouette. Et du coup, après, t'as fait de la gym, je crois.
Ouais, en fait, quand on est rentré en métropole, du coup, j'ai voulu continuer le break en France, ouais. et donc j'ai pas trouvé forcément de structure. Enfin,
ouais.
Qui s'en rapprochaient à côté de chez mes parents, ouais. En Isère, et donc je me suis rapproché d'un club de gym, et donc là j'ai trouvé aussi une super école, une super école de la vie, et puis une école de sport incroyable où on apprend à vraiment connaître son corps, à maîtriser ses mouvements, à connaître sa position dans l'espace. Voilà, ouais. quand on fait des saltos, des tours sans arrêt comme ça, qu'on voit pas forcément où est le reste de notre corps. On a quand même des repères dans l'espace et je pense que par exemple après pour retranscrire en natation, on a besoin de ces mêmes qualités. Donc voilà, c'était super intéressant aussi, mais à un moment donné, il faut choisir, donc on peut pas faire 3-4 sports en même temps. Donc voilà, j'ai abandonné la gym, j'en ai fait 5 ans, mais ouais. C'était 5 belles années, ouais.
Ouais, puis ça te fait c'est sûr que ça fait des aptitudes physiques de malade, quoi. Enfin, quand tu regardes les gymnastes, ils ont ils ont à la fois la souplesse, l'explosivité, la résistance, quoi. Et en même temps, il y a quand même certains agrès où ça doit bien pulser, je pense, le cœur, quoi. Donc ça fait des athlètes ultra complets, quoi. Donc
ouais, ça m'a juste un petit peu stoppé dans la croissance, mais
tu penses?
Ouais, ma courbe de croissance, elle a vraiment stagné quand sur mes années de gym. Mais au-delà de ça, ça c'était plus pour la plaisanterie, mais
ouais.
Au-delà de ça, c'est vraiment une super école, quoi. On y apprend, aussi la discipline, parce que voilà, pour être gymnaste, il faut être hyper discipliné, parce qu'il y a quand même des mouvements où faut pas être là en train de rigoler à droite à gauche avec les copains, faut être concentré, parce que si on se loupe, on se casse quelque chose, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de discipline en gym, et ça c'est vraiment ce que je retiens aussi de cette discipline.
Ouais. Ok, bah, trop bien. C'était quoi ton agrès préféré?
J'aimais bien les parallèles.
Ouais.
Et puis le cheval d'arçon aussi.
Ok. Ouais, ceux qui un peu plus du coup dans les bras et.
Ouais, c'est
plus...
ça. Ouais.
Ok. Et je sais pas, t'as pu rencontrer des mecs comme Samir Aït Saïd pour reparler un peu gym, je sais pas, à l'occasion.
Non, j'ai jamais pu le rencontrer, mais en plus il est pas très loin, je crois. Il me semble qu'il est à Antibes des fois.
Ouais, exactement.
Sur le pôle, enfin sur le Krebs d'Antibes. Et ouais, c'est vrai que en fait, par contre, quand j'ai l'occasion de regarder une compète de gym. Ça me plaît vraiment beaucoup. J'adore les mouvements. Je trouve que c'est un sport qui a beaucoup de, qui est vraiment beau à voir. C'est un sport noble, je trouve.
Ouais. Ouais, ouais, c'est élégant.
Ouais, voilà. Il y a la force, il y a l'élégance, il y a la justesse, vraiment la perfection dans les mouvements. C'est là-dessus qu'ils sont évalués. Donc, c'est vraiment une belle discipline. Ouais,
ouais, je suis d'accord. Ouais. Après, je pense. Ça aurait été trop dur pour moi, je pense. Je sais pas pour toi, mais au niveau de la répétition, de faire plusieurs milliers de fois le même enchaînement, le même truc, là où effectivement dans le triathlon, tu prends ton vélo, tu pars découvrir de nouvelles routes, de nouveaux paysages, et tu peux créer un peu de la diversité, de la nouveauté dans l'entraînement.
Ouais.
Là, franchement, énorme respect pour les gymnastes, parce que
ouais, c'est clair, c'est vraiment la recherche de jeu, ouais, la recherche de la perfection dans le geste, hein. C'est juste ça l'objectif. Après, c'est aussi voilà, moi c'est vrai que j'adore sortir en extérieur et tout ça, mais ce que j'aime aussi c'est rechercher, quand je nage, même si c'est un entraînement tranquille, ce que je recherche sur chaque mouvement, c'est l'efficacité et le relâchement.
Ouais.
Alors c'est pas toujours visuellement très beau à voir.
Ouais.
Mais en tout cas, on est concentré sur le geste, nous aussi sur ce qu'on fait, qu'on roule, qu'on nage ou qu'on court, quoi.
OK.
Avec juste un petit peu plus de diversité, ouais, c'est sûr.
Moi, bon, du coup, tu m'as dit que t'as testé le break, t'as testé la gym. Je sais que t'as fait beaucoup de vélo. Et je sais aussi que tu détestais la natation. Bon, dis-moi un peu tous les sports que t'as testé et comment est-ce que ça s'est imbriqué pour arriver au triathlon. Et je te laisse 30 petites secondes parce que je viens de m'apercevoir que j'ai pas branché la caméra. Donc je te laisse répondre et je t'écoute. T'inquiète.
Ouais. Bah, c'est vrai que j'ai fait aussi pas mal de vélo, enfin, plutôt cyclisme sur route. Et donc, j'ai toujours couru aussi parce que, voilà, mes parents couraient, tout mon entourage courait. Et donc, je suis passé aussi par le canicross. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment par là que je suis rentré dans la course à pied. En fait, c'est par le canicross. Et donc, on allait en montagne, on faisait des compétitions, voilà, dans les Alpes et tout. C'était assez chouette. J'ai même fait les championnats d'Europe de canicross et tout ça. C'était bien cool quand même.
À l'époque, tu faisais ça?
Ouais.
En junior.
Non, j'étais. C'est l'équivalent de Benjamin ou.
Ok. Vois,
c'est avant les catégories minimes.
Mais tu sais qu'on m'a dit que là, actuellement, un des champions du monde de canicross, c'était un Français.
Ah ouais, c'est possible. Ouais.
Et on m'a dit, il faut absolument que tu ailles l'interviewer et tout. C'est un sport qu'on connaît pas du tout, alors que tu vois, il y a des dizaines de milliers de fans à travers le monde. C'est marrant, quoi.
Ouais, bah, grosso modo, j'avais un chien qui me tractait devant, et puis moi, je touchais le sol. Et donc, je pense qu'on fait on faisait vraiment des moyennes de dingue, quoi. À 11 ans, 11, 12 ans, ouais. ça volait parce que on se fait tracter vraiment par le chien devant, et nous, il faut juste rebondir. Derrière, quoi. Sans se faire traîner, quoi.
Ok.
Et donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, il faut peut-être choisir entre tout ça. Je me suis plus orienté sur, du coup, un sport d'endurance,
ouais.
Plutôt que, par exemple, la gym. Je me suis aperçu que je voulais être dehors, je voulais passer du temps, en fait, à faire mon sport. Et donc voilà, petit à petit, je suis arrivé au triathlon, quoi.
Ouais.
Mais sans vraiment savoir très bien nager. Donc voilà, je m'y suis mis pour le triathlon parce que je me suis dit je serais jamais un nageur seulement un nageur parce que voilà, c'était vraiment pas mon truc, j'étais nul. Je prenais pas de plaisir sur les compètes de natte où ça hurlait là dans une piscine fermée et tout, c'était vraiment pas mon élément.
Moi, je me souviens que ça me donnait des migraines, je sais pas pour toi, mais cette espèce d'écho avec tout le monde, tu vois, ça me donnait des migraines, tu vois, de passer deux heures dans une piscine un jour de compète, ça me, juste à cause du bruit, quoi.
Ouais, bah, c'est vrai que, voilà, du coup, j'étais plus à l'aise sur une compète de vélo, par exemple, où, voilà, je me sentais pas, déjà, j'étais un peu meilleur, quand même. Parce qu'en natation, j'étais quand même vraiment particulièrement, mauvais, quoi. Plutôt proche du caillou que du. quelque chose qui flotte.
C'est, franchement, on pourrait jamais se douter de ça, tu vois. Et ça pourrait donner de l'espoir à n'importe quel jeune.
Ah ouais, c'est sûr. Ouais.
Où tu peux partir de très très loin en natation, tu peux en triathlon, tu pourras parfait, quoi.
Ouais.
Parce qu'en plus, on a tendance à dire, tu vois, généralement que. Alors, dis-moi si je dis une bêtise, mais moi, j'ai souvent entendu quand même que ceux qui avaient fait de la nat pendant toute leur enfance, ils étaient quand même un peu avantagés. Je crois que Vincent, c'était un nageur de premier abord.
Ouais.
Dorian, c'était un nageur de premier abord.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il y a même des gars comme Lance Armstrong aussi.
Qui était triathlète lui aussi.
On ne sait pas, mais il a commencé. Il a fait 2 ou 3 ans de nat.
Ouais,
après,
ouais.
Il est passé sur le triathlon.
Ouais,
et ouais. Ensuite, il est devenu cycliste, quoi.
Ouais, donc, en fait, c'est un sport où dès le plus jeune âge, en fait, on peut faire des gros volumes. On peut faire des 20, 25, 30 heures d'entraînement par semaine, alors que voilà, on a 14, 15 ans, parce que c'est pas un sport qui est très traumatisant. Et donc par contre, tout ce temps-là, bah, les petits jeunes, ils développent des qualités de dingue, quoi, en fait. Donc c'est vrai que il y a ça, et puis il y a tout ce côté développement de qualité
cardio-respiratoire,
c'est ouais. Ça. Et puis aussi, bah, c'est vrai que quand on veut commencer le triathlon après à 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, on n'a pas ce retard à combler en natation qui est vraiment la discipline la discipline des trois sports qui est le plus difficile à commencer, quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est vrai qu'un coureur qui se met à la natation, c'est pas joli à voir, alors que l'inverse, voilà, des nageurs qui font aussi un petit peu de PPG à côté des entraînements de natte, c'est vraiment plus facile de se mettre à la course à pied, quoi.
Ouais, bah clairement, ouais, je pense que tu résumes beaucoup de cas de, notamment là, tu sais, le triathlon touche de plus en plus de gens, tu vois, et souvent c'est des gens qui sont passés par la course à pied avant, qui se réveillent un peu plus tard, tu vois, à 25-30 ans, et c'est vrai que les débuts sont durs, quoi. Moi, je me souviens, j'ai pris un nombre de cours pas possible, tu vois, pour essayer de vraiment glisser sur l'eau, et c'était compliqué, quoi.
Ouais, c'est, ouais, bah c'est vrai que
c'est de la souffrance.
Ça demande vraiment un gros investissement. Bah sur du long terme, en fait, faut pas baisser les bras. C'est pas en deux semaines en natation, c'est vraiment pas en deux semaines qu'on va devenir un super nageur. Ça, en fait, c'est vraiment un sport de sensation. Il faut apprendre à toucher l'eau et à sentir vraiment l'appui. Et donc moi, c'est vrai que c'est à un moment donné de ma vie, je me suis dit, bon, là, faut mettre la seconde là en natation, parce que si je veux passer au niveau supérieur, il faut vraiment s'y coller, quoi. Et donc j'allais une fois par semaine à Villeurbanne avec David Perrier, qui était qui entraîne toujours, qui était un mec vraiment reconnu dans sa manière d'enseigner la natation, vachement sur des éducatifs pour vraiment apprendre à sentir l'eau. Ouais. Et donc ça, c'est un mec qui m'a vraiment fait décoller au niveau de mon niveau natation. Et puis juste après ça, je suis descendu du coup dans le sud là quand j'étais en première, pour intégrer le Krebs de Boulouris. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu des conditions royales pour progresser en natation, et vraiment on a mis les bouchées doubles pour combler le retard, parce que je partais vraiment de loin, quoi.
Ouais. Quand tu dis mettre les bouchées doubles, c'est combien de sessions par semaine?
Je pense que je nageais peut-être 8 fois, quoi.
Ouais.
8 fois par semaine. Après, on faisait pas que ça, quoi. On roulait pas mal et on courait à côté. Je suis passé de nager 2-3 fois par semaine, dans mon club au Vallon de la Tour. C'était à la Tour du Pin, okay. C'est le Nord-Isère, quoi.
Ouais.
Je me suis dit, là, faut vraiment mettre les bouchées doubles si on veut progresser. Donc quiconque commence le tri et galère un peu en natte, faut penser qu'on n'est pas les vous êtes pas les seuls, quoi.
Ouais, exactement, il y a toujours de l'espoir. Bah écoute, moi tu m'ordonnes un peu aussi. Non, et puis tu as mentionné aussi les éducatifs, et ça c'est un truc, c'est vrai que si tu démarres tard, tu peux vite avoir envie de commencer à faire de la distance, parce que c'est bon, allez, t'as chopé un peu comment glisser, t'arrives à faire 500 mètres, donc tu te dis, allez, maintenant je vais que me faire des sessions à 3 ou 4 bornes, tu vois, et t'arrêtes de faire des éducatifs. Et moi, je me souviens de mon entraîneur, je sais pas pour toi, mais qui m'a dit, mais tu vois, au bout de 6 mois, je voulais plus trop en faire. Il m'a dit, mais si tu commences à 22 ans la natte, tu dois en faire pendant 5 ans des éducatifs, tu vas t'en manger à tous les cours, quoi.
Mais moi, j'en fais encore, hein. J'adore ça. Ouais, j'aime bien garder cette phase-là dans l'entraînement au quotidien.
Ouais.
Parce que ça me permet vraiment de travailler un point particulier du mouvement. Et après, voilà, ce qui est dur, c'est de mettre tous ces petits, ces petits segments du mouvement, tout ensemble, couplés à la respiration. Voilà, une bonne expiration sous l'eau, une bonne inspiration rapide, un bon placement, un bon gainage. Et donc voilà, c'est tout ça qui est compliqué en natation, c'est de coupler tous ces petits points techniques tout en même temps, en fait.
Bien sûr. Ouais, non, mais c'est passionnant, on pourra en parler pendant des heures, mais c'est sûr que c'est chaud, et il faut toujours continuer à en faire, quoi.
Puis après il faut réussir à switcher aussi en mode compétition, où là, on se fait taper dessus. C'est plus un match de boxe que de la natation en bassin tout seul dans sa ligne.
Ouais.
Non, c'est pas. Enfin voilà, c'est le but, c'est justement d'éviter le contact avec les autres.
Ouais.
Parce que, enfin, qui dit contact dit à un moment donné, on nage pas. Donc si le gars à côté de nous il nage pas et qui nous accroche, on va ralentir, donc on va se faire doubler. Donc vraiment, le but c'est d'essayer de se faufiler en compétition, ouais. En tout cas, d'utiliser les autres, parce qu'il y a, beaucoup de drafting aussi en natation. On peut nager à la hanche, vraiment dans l'aspiration ou derrière dans les pieds.
Ouais.
Et il faut savoir utiliser vraiment les autres compétiteurs pour aller plus vite ou pour s'économiser ou en tout cas se faufiler à un moment donné où il y a des passages de bouée. Ouais. Donc voilà, c'est la natation en bassin, c'est une chose. La natation en eau libre, c'est autre chose avec des vagues, avec des gens autour de soi, c'est particulier. Ouais,
ouais, t'as eau libre déjà, tu vois, quand tu vois pas le fond, qu'il y a de la vase, que
ouais, des fois tu vois même pas ton bras.
Ouais, exactement.
Tu vois, donc voilà, c'est vraiment
après,
quelque chose à pratiquer aussi.
Compète, quoi.
C'est ça, ouais. Où ça se tape dessus, donc voilà, c'est des fois aussi un peu angoissant. C'est vrai que moi, il y a 3-4 ans, je suis passé par une période de plusieurs mois où j'avais peur en fait de faire de la partie départ du triathlon parce que je m'étais fait noyer plusieurs fois de suite et okay. Au passage de bouée, parce que voilà, il faut savoir que des fois c'est quand même assez violent, on se fait couler, soit on se prend des coups, soit ouais. On se fait couler par un concurrent sous l'eau, et puis en fait après il y a tout le peloton qui nous passe qui passe à la surface, et donc toi t'es sous l'eau et c'est compliqué de remonter à la surface sans trouver un espace où on peut respirer. Donc quand t'es à bloc, que tu te fais couler, que tu bois la tasse et que t'es sous l'eau, et tu te dis bon là, ça serait bien de remonter. Voilà, c'est des situations quand même un peu angoissantes, et je sais qu'il y a pas mal de triathlètes en fait qui le vivent, et c'est compliqué de reprendre la confiance et de, parce qu'en fait je m'étais mis à contourner les bouées par l'extérieur, mais je perdais énormément de temps, quoi.
Ouais.
Donc j'évitais vraiment le fight, quoi, comme on dit.
C'est dingue, ça, tu vois. Autant j'ai des souvenirs de triathlon où je crois que c'était sur celui de Sergi Pontoise. J'avais vu un mec qui s'était pété une côte parce qu'il s'est pris un coup de coude, quoi. Il nageait à côté d'un gars et je pense que le gars à côté en sortant son bras, lui a mis un coup de coude dans les côtes et lui a cassé la côte.
Ouais, ouais.
Tu vois, j'ai déjà vu des petits œufs au bord noir et tout, mais je savais pas effectivement, ouais, quand tu coules, après moi j'étais jamais dans les têtes de peloton, donc tu vois, c'est pas la même chose, mais ok.
Ouais, ouais, donc ça peut être un peu, enfin, c'est un aspect en tout cas à gérer.
Ouais.
Enfin.
Mais comment tu le bosses, ça, d'ailleurs?
Ça vient déjà avec l'expérience, ouais. Au fil des compétitions.
Ça, c'est sûr.
Rien ne remplace une bonne compétition où on est, 100, 110 au départ, et ouais. Que la bouée est à peine 150 mètres. Donc voilà, ouais. ça fait entonnoir et il vaut mieux être dans les premiers qu'au milieu du peloton. Mais sinon, ça peut se bosser à l'entraînement, en groupe, tu pars d'une plage avec une bouée, dans un lac à 100-150 mètres et voilà, tu fais une simulation de départ.
Ouais.
Nous on le bosse un petit peu comme ça avant la saison, avant okay. Le début de saison, quoi.
Ouais. Et à quel niveau de triathlon tu commences à bosser ce genre de détails? Tu te souviens,
je pense
quand
que
quand t'arrives au Krebs peut-être ou...
Ouais, voilà, c'est ça. On le bossait déjà un petit peu avant dans mon club.
Ouais.
Mais je pense que c'est important de le faire dès qu'on est jeune, en fait, s'il y a un jeune qui a, je sais pas, 12-13 ans et qui commence le tri, c'est vrai que c'est important de se familiariser avec cet aspect-là parce que voilà, il faut s'habituer au contact avec les autres.
Ouais.
Il faut savoir se repérer dans l'eau, en fait. Moi, c'est vrai que j'essaye en ce moment justement de travailler ça, de pas être complètement perdu au milieu du peloton.
Ouais, ouais.
De savoir me dire bon bah là. Voilà, il y a tel gars à côté de moi, ça serait bien que je le drafte parce qu'il est en train de remonter le pack, donc je vais pouvoir bénéficier de son aide pour remonter. Ou au contraire, attends, là je suis dans un petit groupe qui est en train de se faire vraiment doubler, il faut peut-être que... Voilà, ouais. En tout cas, j'essaye de bosser cet aspect lucidité pendant la natation,
okay.
Ce qui est assez dur en fait parce que t'es dans un environnement où tu vois quasiment rien, t'as des petites lunettes,
ouais.
Ton champ de vision est très réduit, t'as souvent des vagues, t'as de la mousse autour de toi parce que c'est une machine à laver,
ouais.
Donc c'est un environnement qui est assez hostile, on va dire,
ouais.
Et où il est difficile d'être totalement lucide sur ta position et sur ce que t'es en train de faire, donc
ouais,
ça c'est vraiment un truc quand t'es jeune, c'est bien à plusieurs copains de se dire allez, on fait un départ, on va chercher cette bouée ou ce bateau là-bas, on le contourne, Ouais. Et on essaye d'y aller
dans l'après-midi, quoi.
C'est ça, ouais. Donc c'est quelque chose qu'il faut pas découvrir le jour de la compète, c'est sûr.
Ouais, ouais, ça c'est clair, c'est clair. Et mais t'as le temps de penser, tu vois, si tu penses à toute cette partie stratégie et effectivement, tu vois, observer les adversaires, surveiller ta nage, t'as le temps de penser à la qualité de ta nage. En même temps.
Alors c'est vrai
ou
que
ça, c'est un automatisme à ce moment-là, ouais, pour être vraiment focus dans la course.
En compète, il faut se mettre plutôt en mode automatique.
Ouais.
Il faut veiller à garder des bons appuis, voilà, à bien expirer sous l'eau, rester relâché, tout ça, garder du rythme. Mais au-delà de ça, il faut pas se demander, attends, est-ce que j'ai le petit doigt qui part à l'extérieur.
Ouais.
Enfin là, c'est plutôt, faut se focaliser sur des choses basiques, quoi.
Ouais.
Donc le relâchement, le rythme que tu veux mettre et les appuis, quoi. Puis après, ouais, tout le reste, c'est de la lucidité. Est-ce que je suis en train de viser la bonne bouée? Est-ce que je suis pas en train de dériver avec le courant? Voilà, c'est tous des trucs qu'il faut garder en tête et que t'as pas de soucis quand t'es dans ta ligne d'eau à la piscine, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres, on l'oublie un peu, quoi. Mais
ouais,
le jour de la course, ça peut être important. Et d'ailleurs, on parlera un peu prépa mentale, mais c'est vrai que bah notamment sur la natte tu peux bien dégoupiller psychologiquement, je pense, tu vois.
Ouais, bah surtout
quand il y a
une ambiance quand même particulière, il y a une atmosphère particulière juste avant un départ des grosses courses. T'as quand même l'hélico qui te tourne au-dessus de la tête, t'as des roulements de tambour, voilà, ils savent y faire pour te faire monter le cœur.
Ouais.
Et puis voilà, ça. Enfin, tu sens autour de toi que tout le monde est un peu tendu. C'est voilà, la partie, elle va démarrer et tu le sens que ça devient, ouais, ça devient un peu stressant, quoi.
Ouais.
Donc là, c'est important de se mettre dans sa bulle avant de rentrer dans cette partie-là de la course. En fait, la course, elle a déjà démarré avant même que le coup de pistolet soit donné. Il y a beaucoup d'athlètes à différents niveaux qui ont déjà perdu une bonne partie de leur énergie, je pense, avant que le départ réel, soit donné, parce qu'ils ont dilapidé beaucoup d'énergie en regardant les autres, en se disant ouais, putain, il y a lui au départ, est-ce que je suis prêt, enfin, à se poser des questions sur soi-même. Et donc moi, j'essaye de me mettre dans ma bulle avant même que la course soit réellement donnée pour garder toute mon énergie, tout mon focus sur ce que je suis en train de faire à ce moment-là, quoi.
Mais c'est vrai que sur les images, on te voit souvent, t'es très force tranquille, quoi. T'essayes de...
Ouais, alors ça cache forcément un peu de stress et de... Enfin voilà,
nervosité, quoi.
C'est ça, ouais, forcément. Sinon, si t'es pas nerveux, si t'es pas stressé au départ, c'est que t'es dans ton canapé et que t'es pas prêt au combat qui va être livré, quoi.
Ouais.
Donc voilà, c'est vrai que moi j'essaye d'être plutôt calme, mais je pense que je suis naturellement comme ça avant un départ.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis même dans la vie de tous les jours, je pense que t'es...
Ouais, je suis pas quelqu'un de trop stressé, quoi.
et je me demandais, c'était une des questions que je me posais, comment est-ce qu'est définie la ligne de départ sur le tapis, enfin sur le plongeoir au début. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver à côté d'un mec, vu que t'as parlé un peu de potentiel, un peu crainte, tu vois, d'être tombé avec sur des bouées, d'avoir eu des problèmes, tu vois, de te retrouver à côté d'un mec et de te dire ah putain, celui-là c'est un bourrin. Il nage comme un albatros, il met des gifles à tout le monde.
Ah ouais, ça arrive, ça.
Ça, on n'est pas obligé de citer des noms, tu vois, mais est-ce que vous savez que dans le peloton, dans le groupe, il y a quelques gars, mieux vaut pas se retrouver à côté d'eux le jour du départ, tu vois. Et comment est fait cette ligne de départ?
En fait, la ligne de départ et les positions sur le départ, elles sont définies par ton classement mondial.
Okay, c'est le classement.
Le classement WTS, en fait.
C'est ce que j'avais trouvé.
Pour les épreuves de la série mondiale, en fait, c'est le classement WTS. Et donc
pour Super League et Grand Prix de D1, c'est à peu près la même chose.
Ouais, en gros, c'est le classement, quoi. Le Grand Prix, c'est le classement des clubs. Donc le club qui est premier au classement, il va être appelé en premier et il va choisir son emplacement. Peut se mettre où il veut, en fait, sur le ponton, mais par contre, il va avoir le choix.
En premier. Donc vous êtes appelé dans l'ordre
du classement, ouais, c'est ça.
Okay.
Et donc il y a des courses où c'est pas voilà, c'est pas très important de choisir en premier parce que la première bouée est à peu près à équidistance des deux côtés. Mais par contre, il y a des courses qui sont vraiment, enfin, il y a des parcours qui sont vraiment pas
optimisés
pas équitable du tout, et t'as une bouée qui est vraiment vraiment sur la droite, et donc tu sais que si tu pars tout à gauche, t'as en plus du chemin
en plus
à faire par rapport à ceux qui seront à droite.
C'est quoi donc, les courses où t'as ça, où t'as des parcours comme ça?
Ben, s'il y a des épreuves de la Super League, ou voilà, je me rappelle à Malte où clairement on avait une première bouée qui était à, je pense, à 50 mètres. Et elle était à gauche du ponton, donc si tu partais à droite, t'étais mort, quoi. C'est sûr. Il enfin, y a
déjà
pas de
50 mètres, quoi. Mais...
Ouais, voilà. C'était. Après, il y a l'aspect spectaculaire de ces épreuves-là qui est vraiment recherché. C'est pas anodin. Ouais. Ils veulent de l'action et du combat et.
Bien sûr.
Et donc.
On peut le voir, ouais, sur tous les contenus qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils apportent de la digitalisation, du spectacle.
Ouais. Bah c'est ça qui rend aussi la course un peu intéressante.
Ouais.
Mais donc pour en revenir aux positions sur le départ, ouais, c'est tu te retrouves souvent à côté d'un mec que t'aurais, enfin voilà, à côté de qui tu voudrais vraiment pas être, quoi. Et donc là t'as pas forcément le choix.
Ouais.
Si le gars est appelé juste après toi, si le gars est appelé juste avant toi, et qui se met tout à gauche, bah toi tu peux essayer de le piéger. Si c'est un mauvais nageur par exemple, tu vas te dire attends, moi je vais me mettre tout à droite, comme ça il va être un peu piégé. On va faire peut-être une petite entente entre Français, à se dire attends, là l'adversaire principal il est appelé en premier. Ouais. On va se mettre nous tous à droite, on est des bons nageurs, on va essayer de faire un, tu vois, de contrer un peu son idée et de le piéger, quoi. Donc voilà, il y a des choses à faire aussi avant même que le départ soit lancé. Il y a des choses à faire dans le choix de l'emplacement sur le ponton de départ.
Ouais. Ok. Vous en parlez du coup clairement entre, tu vois, avec Dorian, Pierre ou Vincent, un peu de la stratégie un peu globale que vous pouvez avoir.
Ouais, bah
le,
en fait,
le matin même ou la
déjà veille. Déjà ce qui est quand même arrangeant, c'est qu'on a tous plus ou moins les mêmes profils. Ouais. Donc on va tous être pas trop loin de la tête à la sortie de l'eau. Et donc on
c'est
a tous intérêt
tous
à
nageurs, quoi.
On a tous intérêt à ce que ça nage fort, à ce que ça roule fort pour essayer de s'échapper. Et puis après on règle nos comptes en course à pied. mais en tout cas on l'a déjà fait par le passé. On peut bénéficier de cette force un peu de collectif pour créer des mouvements, des échappées, pour essayer de piéger des adversaires qui nagent un peu moins bien, quoi.
Ouais.
Et il y en a en ce moment. Il y a les Norvégiens, il y a un Néo-Zélandais, il y a un Anglais, Alexis. Voilà, ces gars-là, il faut clairement pas attendre la fin du vélo pour régler les comptes. Il faut prendre de l'avance.
Ouais.
Après, ça veut pas dire qu'on peut pas les battre à pied, mais voilà, disons que il vaut mieux les fatiguer avant, en tout cas.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais, puis tu peux même tu peux plier des courses dès le début ou.
Ouais, ouais.
Enfin, c'est rare parce que vous êtes tous des combattants et vous voulez tous aller jusqu'au bout et vous lâchez rien. Mais tu peux plier des courses assez rapide. Enfin.
Ouais, ouais. Bah en tout cas c'est le
psychologiquement c'est le dans la tête, quoi.
En fait, disons qu'on va jamais éliminer tout le monde dès le début de course ou dès le début du vélo, mais par contre on peut grâce à ces actions là en piéger définitivement quelques-uns, quoi.
Ouais.
Parce que il y a des gars qui ce jour-là ont réalisé vraiment une mauvaise natation et si ça embraye direct dès le début du vélo, bah c'est fini pour eux, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais écoute, c'est hyper intéressant cette partie stratégie, tu vois, qu'on le voit pas, tu vois, sur les écrans.
Ouais, et puis c'est un sport individuel, donc voilà, quand nous on décide de prendre des relais à 3 ou 4 Français dans une échappée, comme enfin voilà, on l'a déjà fait cette année à Leeds, sur une épreuve du circuit mondial où
c'était beau d'ailleurs de vous voir,
voilà,
ensemble.
Il y a Tom Richard et je crois que c'est Dorian qui prennent vraiment les choses en main dès le début du vélo dans la première bosse. Et avec Vincent, on se barre juste après. Enfin, il y a une cassure. Voilà, c'est vraiment un mouvement de course qu'on a fait en équipe.
Ouais.
Et donc, ça saute pas aux yeux comme ça, mais clairement, tout le monde a participé à ce mouvement de course. Et la prochaine fois, on essaiera d'embarquer tous les bleus avec nous. Mais voilà, c'est pas simple tout le temps de mettre en place des échappées. Mais on peut le faire, quoi. Je pense qu'il faut réessayer. il faut s'en inspirer pour les prochaines saisons là.
Ouais, bah carrément. Et il y a, on voit qu'il y a de plus en plus de stratégies dans les courses avec les années. Tu vois, où c'était peut-être justement, on parlait de Fred Bellob qui habite pas très loin d'ici. Quand on regarde un peu les images, j'allais dire d'archives, c'est pas si vieux que ça, mais quand on regarde un peu les images, c'est plus fouillis. Tu vois que vous, effectivement, ça, déjà, ça va tellement vite, c'est incroyable. Et on sent qu'il y a une partie stratégique qui est importante, quoi.
Mais ouais, bah, en fait, disons que le triathlon, c'est quand même un sport qui est assez jeune dans l'histoire. Et en fait, on voit des dynamiques de course qui évoluent, là, au fil du temps. Ouais. On a eu une période, bah, où quand Fred Bellob courait, c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. Ouais. En fait, ça nageait très fort, ça se regroupait souvent en vélo, et puis après, en fait, souvent c'était la course à pied qui réglait les places définitives. Mais après, il y a plusieurs gars qui sont arrivés sur le circuit, dont les frères Brownlee, qui ont vraiment amené ces courses agressives du début à la fin, en fait, où ils ont utilisé cette force là d'être deux avec la même stratégie pour se barrer un nombre de fois en vélo incalculable. Ouais. Et donc petit à petit, en fait, tout le monde a commencé à réagir, tout le monde s'est entraîné un peu plus en vélo, parce que voilà, rapidement, on a tous compris que si on n'était pas fort en vélo, bah, on allait sauter. Et ouais. Ou au mieux, si on arrivait à rester avec eux en vélo, ben, on allait finir le vélo en croix complet, quoi, ouais, avec plus rien dans les jambes. Donc voilà, je pense que le niveau et puis la densité actuelle en vélo, en tout cas, est vraiment bonne.
Ouais.
Rien à voir avec des cyclistes pro, hein, quand même, mais mais je pense que voilà, ça a vraiment progressé de ce côté-là.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et donc maintenant, c'est compliqué de faire des mouvements de course, c'est compliqué de faire des échappées parce qu'il n'y a plus vraiment d'athlètes qui a un point faible, en tout cas plus sur le vélo, quoi.
Ouais, le décrocher, ouais, c'est bien compliqué.
Ouais.
Et qu'est-ce qui fait, enfin, tu vois, du point de vue des spectateurs et tu vois des fans, des passionnés comme moi, on se dit, quand on regarde l'équipe de France, on se dit, waouh, quelle équipe. Bon, déjà, il y a eu des titres en relais mix, un paquet. Il y a effectivement, tu vois, les échappés où on voit de plus en plus bosser ensemble. Je me souviens même en duathlon de Monsieur Choquer qui a remporté quelques titres avec son coéquipier, j'ai oublié son, il m'excusera, mais on voit, tu vois, à la fois que vous entendez bien qu'il y a des résultats, que le niveau moyen de l'équipe de France il est en permanence en train de grossir, tu vois. Toi, de ton point de vue, de ton point de l'intérieur, est-ce que il y a des trucs que vous bossez particulièrement, est-ce que, je sais pas, il y a eu un coach qui a réussi à fédérer tout le monde. Est-ce que il y a des dispositifs qui sont mis en place qui font que ça marche? En tout cas, du point de vue des passionnés, on se dit putain, c'est trop bien, quoi. Enfin, on est en train de marcher sur tout le monde petit à petit, tu vois. Effectivement, et ça fait plaisir.
Bah en fait, je pense que le point de départ, en fait, c'est qu'on s'entend déjà tous très bien.
Ouais.
Et du coup, on n'a pas de soucis à bosser ensemble, à bosser les uns pour les autres. Des fois, à faire des petits sacrifices pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et voilà, quand on se retrouve en déplacement ensemble, en fait, on passe un super moment, en fait, le week-end, il passe à 100 000 à l'heure parce qu'on est juste des super potes. Et donc on n'a pas de soucis à former ce collectif très fort et du coup à bosser les uns avec les autres, quoi.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est vraiment le point de départ, parce que des fois, on voit, on voit dans d'autres nations des gars qui se tirent dans les pattes, en fait, pour avoir une sélection au sein de leur pays.
Ouais, parce que
enfin voilà, nous c'est à un moment donné c'est dur aussi hein, de se dire bah voilà, on est 4 ou 5 Français au jeu, il y aura que 3 Dessarts. Il y en a un ou deux qui vont rester sur le carreau et pour autant en fait j'ai jamais senti ces tensions qui montaient à l'approche d'une sélection comme les jeux, parce que on a toujours su bah faire la part des choses, et puis il y a un moment pour faire la sélection sur la course où on va jouer vraiment notre carte perso, et puis il y a d'autres moments où voilà on se sert des forces des autres pour tirer tout le groupe vers le haut en fait quoi.
Ouais. Bah écoute, ouais, ça se ressent. Il y a un peu, je sais pas si t'as lu le bouquin de l'entraîneur des All Blacks. Bah écoute, c'est un bouquin que je te recommande. J'ai oublié le nom, mais je te le file juste après et je le mettrai dans la description de l'épisode pour les auditeurs. Mais il y a, en gros, c'est les 11 règles d'or pour avoir une équipe qui gagne, tu vois.
Okay.
Et une des règles, c'est le groupe avant tout, enfin tu vois, préserver la santé du groupe avant tout, et même si t'as un talent extraordinaire qui s'entend pas avec le groupe, mais en fait peut-être qu'il faut s'en séparer par exemple, tu vois, il explique des concepts un peu durs, un peu comme ça, et il dit il y a un autre truc, c'est avoir de l'âme avant de la performance quoi. Et en gros, chercher dans une équipe, toujours chercher ceux qui ont le plus de qualités émotionnelles, intelligentes et tout. Et dans le bouquin, il distille des exos, tu vois. Et du coup, je suis curieux de savoir, est-ce que vous le bossez justement cette alchimie, vous vous retrouvez, c'est sûr, vous voyez sur toutes les compètes, mais est-ce que il y a quelqu'un qui vous force à aller faire des bouffes ensemble?
Ah non, on se force pas en fait, c'est ça qui est bien, c'est que
ouais.
Après voilà, on a pas un collectif à faire tourner comme une équipe de rugby, mais il y a certains points qu'il faut clairement, enfin dont il faut clairement s'inspirer. Et ouais, c'est vrai que, enfin je lirai carrément ce bouquin, surtout que j'étais un grand fan de rugby. J'ai oublié de mentionner ça dans mes sports de jeunesse, mais quand je me suis fait découper en deux par un
canac.
Ouais, non, c'était même pas là. Ouais, j'étais parti en stage linguistique. C'était anglais rugby en fait.
Okay.
Et donc moi j'étais arrivé tranquille, jouer au rugby avec mes potes.
Tu l'as fait en Angleterre du coup ?
Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait je me suis ramené là-bas et c'était clairement plus rugby que anglais quoi. Et donc je me suis fait découper.
Frenchie.
Ouais, je me suis vraiment découpé et je me suis dit bon bah voilà, moi je vais parler anglais quoi juste. Et non, mais c'était la petite parenthèse, mais ouais carrément, je lirais bien ce bouquin.
Je te le ferai. Il est pas gros et ouais. Il est vraiment très très bien, et puis c'est sur la grande équipe de All Blacks fin des années 80, début des années 90, et tu vois, c'est des préceptes qui marchent toujours.
Ok. Ouais. Et donc après, c'est vrai que pour en revenir à notre collectif, moi je suis vraiment le plus jeune de ce groupe là à l'heure actuelle, et voilà, par exemple un Vincent Louis, il m'a toujours pris enfin en quelque sorte sous son aile, et il a toujours eu le petit conseil, tu vois, qui va bien avant une course.
Ouais.
que je connaissais pas du tout. Il m'a toujours un petit peu ouvert son expérience, partagé des choses qui connaissait, des choses du terrain quoi en fait.
Okay.
Que voilà, que tu connais pas quand tu débarques des années de tes années jeunes et inexpérimentées. Et donc il y a eu ça. Après je me suis entraîné quand même 5 ans avec Dorian sur Échirolles,
donc ça crée des amitiés
et
aussi,
donc Dorian il avait une énorme expérience aussi, parce qu'il a commencé très jeune sur le circuit mondial.
Ouais.
et c'est pareil, je pense qu'on s'est servi vraiment de, enfin l'un de l'autre, de pour en fait aller chercher l'étape d'au-dessus quoi.
Ouais, c'est ça. Lui, il a été champion du monde en junior, je crois.
Ouais, il a fait champion du monde junior, espoir l'année d'après.
Ouais, donc ouais.
Donc voilà, c'est clairement, c'est clairement un gros nom du triathlon français. Et après, on a vraiment deux profils complètement différents dans la vie de tous les jours.
Ouais.
On est hyper potes. Et je pense que pendant 5 ans, on a vraiment trouvé un bon équilibre pour essayer de faire monter nos niveaux respectifs.
Ouais.
Bah lui en tant que vraiment un gros compétiteur, même au quotidien à l'entraînement, je sais que voilà, c'était dur, enfin voilà, on cherchait à finir l'entraînement bah, promis en fait. Chaque entraînement était une compète.
Ouais.
Et je pense que ça m'a vraiment tiré vers le haut, tu vois. Ça m'a vraiment apporté. Moi qui venais du breakdance, de la voile, tu vois, tranquille quoi.
Ouais, ouais.
Qui faisait du sport pour mon plaisir personnel. Et alors que Dorian, il a toujours été bercé dans une ambiance vraiment de compétition et
ouais.
dans ses objectifs là. Et donc moi après je lui ai amené je lui ai partagé d'autres côtés de ma personnalité qui ont pu à certains moments lui servir aussi quoi.
Ouais.
C'était je pense du donnant, mais tout ça pour dire que tout le monde partage avec tout le monde et en fait on essaye de piocher dans les uns les autres pour ressortir en tant que groupe ouais. En tant que collectif fort quoi.
Ok, mais en tout cas ça paye les gars, donc bravo quand on voit le classement général, quand on voit les relais mix et tout, c'est top. J'aimerais bien qu'il y ait un relais non mix aussi pour voir, tu vois.
Ouais, comment biathlon des fois.
Ouais,
ou...
exactement, pour voir un peu.
C'est
comment...
vrai que ça nous démange aussi, mais voilà, c'est peut-être le.
Pour voir aussi bien les nanas que les mecs, hein, d'ailleurs.
Bah, carrément.
Ouais, ouais, parce que elles sont costauds aussi.
Ah bah, c'est clair qu'il y a un beau groupe aussi chez les filles.
Ouais.
Mais d'ailleurs, on est ce qui est bien, c'est qu'on
ensemble.
Est. Voilà, on n'est pas juste une équipe mec, là, on a vraiment une belle équipe de France homme-femme et on est un beau groupe. Enfin, vraiment, c'est un régal les déplacements tous ensemble. On rigole bien tout le week-end, c'est cool. Et puis quand ça perf pour quelqu'un, on est content, on est content pour lui. Voilà, on est juste une bonne équipe, quoi.
Ouais, mais écoute, ça se sent. Et tu vois, pour en avoir rencontré quelques-uns parmi vous, ça sent que vous êtes des gens bien, tu vois, aussi. Tu vois, ou des gens simples, humbles, vous bossez et ça marche pas dans toutes les équipes, tu vois, et notamment dans les sports individuels, tu peux avoir des gros écarts de personnalité. Ça, c'est un des trucs que je vois en prépa mentale, tu vois, justement, les sports un peu compliqués à gérer où t'as une grosse part d'individuel, mais t'as aussi une part d'équipe. Et cette part d'équipe, elle construit ce que tu vas prévoir pour le groupe, pour la progression individuelle de chacun, tu vois. Et c'est hyper dur, en fait, à faire pour que ça prenne. Des fois, ça prend, des fois, ça prend pas du tout. Il y a l'aviron aussi, tu vois, à Tokyo, qui a super bien pris,
ouais.
Où ils s'entraînent ensemble, ils font tous... ils font les qualifs en indiv, et après, ils font les compètes internationales en duo, tu vois, et c'est hyper compliqué, tu vois, à gérer et tout. Donc, c'est... En tout cas, moi, de mon point de vue de passionné de sport et de prépa mental, je trouve que c'est cool et c'est beau à voir. Et donc, félicitations à tout le groupe. Donc, c'est cool. J'ai appris aussi que tu avais partagé quelques chambres avec Mario Mola,
ouais.
qui est une des légendes quand même des 10 dernières années.
Moi, c'est clairement.
Il est clairement mon idole. 3-4.
Ouais, au moins 3 fois champion du monde, il me semble. Et par contre, il a gagné 16 WTS quand même. Donc okay.
Et puis il a gagné
un paquet de podiums.
Ouais. Puis il a gagné avec des mecs comme Vincent ou les frères Burnley niveau quoi.
Ouais, ouais. C'est clairement une légende du sport et à côté de ça, en fait on est dans le même club en France.
Ouais.
On est dans le même club de Saint-Jean-de-Mont en Vendée.
Ouais.
C'est ça. Et donc un gars comme ça, tu passes le week-end avec lui, c'est tellement enrichissant. Tu gagnes 5 ans d'expérience au plus haut niveau, quoi, en fait.
Qu'est-ce qu'il t'a appris ?
Il m'a appris... Lui, en fait, ce qu'il apprend, c'est que le triathlon, c'est... Voilà, c'est tranquille. On est juste des triathlètes. Et donc, ne te prends pas la tête parce que voilà, c'est juste du triathlon, quoi. Et donc, c'est un mec qui est... Enfin, c'est au niveau de... Enfin, du... comment dire ? C'est de la simplicité, de la gentillesse, du partage... C'est la référence, quoi.
Ouais.
Le gars, il voit des petits jeunes qui connaissent Nina dans Ninev, il va leur dire bonjour, il va leur parler 2 minutes, il va s'arrêter. Mais c'est lui qui va le faire naturellement, quoi. Tu vois,
ouais.
C'est vraiment un gars, il est profondément gentil, quoi.
Ok.
Et donc,
avec cette philosophie un peu espagnole. Oh là, c'est juste, c'est juste des triathlons.
Ouais, ouais, c'est ça. Non, il est vraiment tranquille et c'est vraiment un super gars. Et puis au-delà de ça, c'est un palmarès incroyable.
Ouais. Ouais, ouais, puis c'est vrai que ça fait Moi, j'ai toujours préféré, tu vois, les grands champions très humbles,
ouais.
Que effectivement, peut-être, tu vois, les Usain Bolt, ce type de personnalité. Je vais préférer un Federer ou un Nadal ou effectivement un Mario Mola, tu vois, qui où tu sens que c'est des forces tranquilles, quoi. Et
ouais.
Moi, ça m'inspire plus, en tout cas. Chacun son truc.
Oui, c'est clair. Ouais.
Mais ok. Donc c'est ça que tu tires de. Et question con, mais qu'est-ce qu'ils trouvent à être dans un club français en Vendée?
En fait on vient chercher
la qualité du groupe,
c'est on vient chercher d'abord la course avant le club, parce que c'est ça qu'on vient chercher en Grand Prix, en fait. C'est ouais. c'est d'abord courir sur le championnat de France, quoi, en première division,
parce que le niveau est pas assez fort en Espagne ou...
Ah ouais, bah clairement c'est le plus gros niveau ouais. Au niveau, enfin sur un championnat national, c'est le plus gros niveau en Europe et puis dans le monde,
ouais.
Donc ça permet de venir faire des courses qui sont vraiment sans pression, de venir bosser des aspects spécifiques, quoi, comme les départs, les, enfin voilà, des finishes de course. Tu retrouves les mêmes gars en fait sur les WTS, mais sur des courses où t'as aucun, tu vois, je dis pas que t'as aucune pression, t'as la même envie de bien faire pour ton club et tout ça, mais par contre t'as pas de sélection, tu vois ce que je veux dire, y a pas d'énormes enjeux, tu joues pas ta carrière là-dessus. Par contre, ce que tu peux faire, c'est apprendre encore sur ces courses, et spécialement quand t'es plus jeune, que t'as l'opportunité de rentrer dans un club comme ça de D1 et de côtoyer des athlètes comme Mario Mola, comme à l'époque il y avait deux néo-zélandais. Ouais, maintenant en fait c'est ce que j'essaye de faire avec des nouvelles recrues là qui sont plus jeunes, qui ont à peine la vingtaine, c'est de faire ce que Mario Mola a fait il y a 6-7 ans quand je suis arrivé dans le club, quoi.
Ouais.
Donc un Mario Mola, en fait, il vient simplement s'entraîner vraiment spécifiquement pour préparer les grosses compètes qui arrivent okay. Soit la semaine d'après, soit un mois après, quoi.
Ok, d'accord. Ouais.
Et donc donc après pourquoi le club en Vendée à Saint-Jean-de-Mont, parce que c'est
pas très loin,
c'est en fait c'est un des clubs les plus sympas,
okay.
Voilà, c'est une grande famille, quoi. Donc après tout le monde est cool, hein, dans les autres clubs, mais c'est vrai que moi j'y trouve vraiment mon compte et je suis soutenu sur les grands prix, mais aussi tout le reste de l'année. Je sais qu'ils sont à fond derrière moi, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, et ils sont à fond derrière Mario Mola aussi, tu vois. Donc donc voilà, je pense qu'il est venu chercher cet aspect famille dans ce club là
ouais. Mais pour avoir un peu traîné avec le club de Royan et de la Palmyre, je sais que sur la côte atlantique il y a des bonnes ambiances dans les clubs et que il y a, ça reste une terre de triathlon, hein, tu vois. Quand tu vois, il y a de belles courses et tout. Moi j'ai fait la boule.
Ouais.
Tu vois, donc il y a des beaux parcours, quoi.
Ouais, carrément, ouais, c'est sûr.
Mais écoute, c'est trop cool, trop cool. Et là il y a, en parlant de belles courses, il y en a une que c'est une des questions qui avait été posée là sur Instagram. Je demandais un peu les questions qu'ils avaient envie de te poser, et la question c'était quelles sont toi les courses qui te font le plus vibrer, ou que tu recommanderais à un triathlète de faire absolument dans sa carrière?
Alors il y a des courses qui me font rêver, que j'ai encore auxquelles j'ai jamais participé encore. C'est, enfin là je sais que je viens de regarder Hawaï, tu vois, les mondes Ironman, et enfin l'ambiance elle a juste l'air dingue. Tu sens vraiment le mythe derrière cette course, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me ferait vraiment vibrer, quoi.
Après, c'est sûr que tu le feras un jour. C'est la question à se poser.
Ouais, on verra.
Pas.
On verra, mais c'est vrai que
quand.
Il y a des choses comme ça qui t'attirent.
Ouais.
Donc ça.
Puis en plus, il y a
un
Français qui a failli voler la top news de l'année quand
c'est
même.
C'est clair. Ouais. Ah, c'était beau à voir.
Ah ouais, c'était chapeau. Et je connaissais pas du tout. Écoute, sacré perf.
Ouais, carrément. Bah nous, on le côtoie un petit peu là, quelques fois sur des stages. Enfin, là on était à Font-Romeu là cet été.
Il était là avec
là-bas, voilà, avec d'autres gars du longue distance. Ouais. Et donc les gars c'est des grosses machines, hein, franchement. C'est un énorme respect pour ce qu'ils font, parce que faut vraiment aimer souffrir, mais dans la durée, mais comme pas possible, quoi. Bref, donc Hawaï, ça me fait rêver pour vraiment le mythe et l'ambiance particulière qu'il y a là-bas. Après il y a des courses que j'ai fait bah par exemple à Lausanne sur une grande finale, c'était en 2019 où il y avait un monde mais un public pas possible, c'était incroyable. On avait les oreilles qui sifflaient après la course, on s'entendait même pas respirer. C'était fou. Pareil Munich cette année, les championnats d'Europe. Il y avait vraiment un public de folie. Ouais, c'est ça. Donc je sais que voilà les courses en Allemagne comme Roth par exemple, les formats vraiment longue distance, il y a toujours une super ambiance. Après, j'ai
Nice aussi, il faut que tu fasses un de ces quatre.
Ouais, ouais.
Ça fait du bruit quand même. Ça fait du bruit, ça ramène du bruit.
Ouais, c'est sûr, ouais. Après, moi, si j'avais des triathlons à conseiller, peut-être le triathlon de l'Alpe d'Huez, tu vois, il y a des parcours, je pense, qui ont quelque chose, tu vois, qui amènent quelque chose en plus. J'ai bien aimé aussi le longue distance de Cannes.
Ok.
Voilà, il y avait un super parcours. C'était un triathlon pour souvent qui est en avril, il me semble.
Ouais.
Pour commencer la saison. Et sur la côte, là, c'était vraiment super le tracé. Et puis, on va des fois dans des endroits où c'est quand même moins sympa, genre Yokohama. En général, il n'y a pas un public de dingue. Abu Dhabi aussi,
te demander tes pires courses. C'est vrai que Yokohama,
ça fait pas rêver. Hambourg, c'est la folie. Hambourg, il y a vraiment un public de ouf. Le parcours est sympa et tout. Mais voilà, ça varie vraiment d'une course à l'autre en fonction du parcours, du public. Tu vois, à Abu Dhabi, il n'y a vraiment personne sur le bord de la route, à part les coachs. Mais par contre, tu fais ton triathlon sur le circuit de Formule 1, tu vois. Donc, il y a quand même quelque chose de spécial. C'est quand même sympa.
Il y a une expérience.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai qu'on est je pense que tous les Français sont un peu attristés qu'il n'y ait pas un WTS sur le territoire.
On va avoir le droit au test event l'année prochaine sur Paris.
Donc,
on sait que l'année prochaine, il y a une manche, donc c'est spécial, ça va. Il y a des éditions du test event.
Ça sera le même parcours.
Ouais, c'est censé être vraiment la répétition générale avant les Jeux de Paris.
Ouais.
Donc ils testent le parcours, ils testent absolument tout quoi. Donc, on sait que l'année prochaine on a le test event en France. Donc, on attend un beau public pour. Le public faut aussi qu'il s'entraîne.
T'as déjà la date ?
Il me semble que c'est en août. Si je dis pas de bêtises.
Bah écoute,
on donnera l'info quand ça sera absolument sûr.
Oui.
Mais le public aussi, il faut qu'il fasse son test event pour vraiment être sûr d'être prêt en 2024 pour nous soutenir.
Mais carrément, mais je disais ça à Loana hier, je disais qu'est-ce que tu demandes au public français ? S'entraîner, aller voir du vélo.
Ouais, c'est ça.
Aller voir du vélo un max et entraînez-vous à faire du bruit, et c'est clair. Mais écoute, compte sur moi, je serai là, je vais essayer de me choper pour avoir une petite accrède pour pouvoir venir vous voir si c'est possible un peu après la course mais c'est cool. Et ouais, donc il y a des tu vois, on a parlé des courses que t'aimes bien, des courses que t'aimes moins bien. Comment est-ce que tu crées une stratégie de course, d'ailleurs? Est-ce que tu la bosses avec ton coach? Vous regardez le parcours, vous regardez les participants, tu regardes le classement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous regardez que je vois pas, tu vois?
Là, t'as cité pas mal de trucs qu'on regarde avant une compétition qui est importante. Par exemple, on va prendre le temps de bien étudier le parcours. Parce que voilà, si c'est une épreuve comme les Bermudes avec un énorme pétard au milieu du vélo, on sait qu'on va bosser, on va faire au moins une ou deux séances spécifiques en vélo
pour attaquer,
pour être prêt pour une bosse comme ça, pour un effort qui est vraiment intense sur une durée très courte.
Ouais.
Après, tu vois, avant une épreuve comme Munich. On va s'habituer à courir pas forcément sur du plat parce qu'il y avait vraiment une grosse bosse, et donc qui dit montée dit forcément descente, et courir très vite en descente en étant relâché, c'est aussi quelque chose qui se travaille.
Ouais.
Donc voilà, c'est tout on va prendre les courses une par une, et on va se dire bon, la prochaine ou dans 2 mois on a une compète qui est bien spécifique.
Ouais.
On va essayer de bosser les qualités qui vont primer sur ce parcours là. On va essayer de retracer un petit peu un équivalent du parcours vélo, voilà, qu'on pourrait retrouver sur la compète pour bosser dessus en amont, quoi.
Okay.
Donc il y a le parcours, il y a forcément les adversaires qui vont définir une stratégie de course à laquelle on va réfléchir avant la compétition. Et si notre adversaire direct c'est un mec qui nage pas super bien, voilà, on sait qu'il vaut ils vont mieux pas l'attendre à la sortie de la natte, quoi. Donc ça c'est des choses qu'on bosse avec le coach,
mais longtemps avec, en avant,
longtemps en amont, et puis aussi avec ma prépa mentale qui va essayer de me conditionner sur une stratégie de course, sur une ligne de conduite, et puis après à adapter en fait en fonction des faits de course, parce que on a beau avoir une ligne de conduite, course est rarement voire jamais en fait idéale et très difficilement prévisible à l'avance, quoi.
Ouais.
Donc on a une ligne de conduite, on a une idée derrière la tête, mais par contre il faut savoir rester vachement adaptable aux faits de course, quoi.
Ouais, bah ça c'est une des qualités numéro un, je trouve, des champions et des athlètes de haut niveau, c'est leur capacité à s'adapter justement à l'événement qui est en train de se produire. Ouais. Donc OK, et visualisation, quand tu visualises, tu vas te dire OK, tu vas visualiser ta course, ta journée entière peut-être, les moments où tu vas attaquer, tu vas essayer de rentrer le plus possible dans les détails, c'est ça ?
Bah, je vais en fait avoir un schéma en tête. Et donc bien défini d'abord avec les horaires, avec les différentes étapes avant la course,
du protocole,
voilà. Donc je veux partir de l'hôtel à telle heure pour être en avance à l'ouverture de l'espace athlète, pour faire checker les vélos, pour récupérer ma puce, pour tout faire, quoi, en fait.
Donc ça aussi tu le visualises pour te plonger dedans, quoi.
Ouais, parce qu'en fait je suis quelqu'un de pas stresser, mais ça veut dire aussi
tu peux t'endormir
des fois un petit
matin.
Peu détendu, quoi, tu vois. donc il vaut mieux que je m'impose des horaires pour être sûr de pas m'endormir et pas me retrouver en retard à un moment donné dans mon programme d'échauffement, en stress en fait avant la course, parce que j'ai pas eu le temps de bien m'échauffer dans telle discipline et tout, quoi. Ça m'est déjà arrivé en fait de devoir me dire je vais pas dans l'eau là parce que l'échauffement natation est fini, quoi.
Ouais.
Parce que j'étais trop à la bourre avant, parce que il y a des organisations un peu moins efficaces que d'autres, et où tout le processus de checking en fait des vélos, des puces et tout ça prend beaucoup plus de temps que prévu, et donc si toi t'as pas de la marge dans ton programme d'échauffement, tu peux te retrouver tu vois un peu just et tu te dis bon là je vais pas nager, mais c'était pas prévu,
flinguer ta course tout seul en fait, tu vois.
Ouais, voilà.
Et
alors après,
et ça, tu vois, les spectateurs ils s'en doutent pas, tu vois, ils pensent que est bien organisé, c'est facile pour vous le matin, mais en fait il y a déjà une part de stress, quoi, de remplir le protocole, de tu te bouges de l'hôtel, checker le matos, t'assurer que ton sac y a tout, ça c'est con, mais t'arrives le matin, t'as oublié tes lunettes. Bon, j'imagine.
Bah
que
ouais, en fait, mais en fait, il y a,
ça
tu vois, il y a des tas d'anecdotes comme ça où en fait par exemple une année à Leeds, en fait, il y a deux parcs à vélo, donc il y a une première transition qui est à côté du lac,
ouais.
Et après la deuxième transition, elle est vraiment dans le centre-ville, à 15 km de la première.
Et vous changez de vélo entre les deux ?
Non, en fait, on nage dans le lac juste à côté de la première transition. On fait notre première transition, on monte sur le vélo.
Les deux sont pas au même endroit.
C'est ça, voilà.
Oui, okay.
Et donc si tu veux, il y a un peu de logistique entre les deux.
J'ai cru qu'il y avait deux endroits où deux vélos, mais j'ai bugué.
Et donc il faut pas se planter dans les sacs que tu donnes à un tel et à un autre qui achemine le matos à tel endroit, quoi. Et donc je sais plus comment ça s'était passé, mais on avait donné un sac avec tous nos combis. Tous les athlètes de l'équipe de France avaient donné leur combi à quelqu'un de l'équipe de France, et les sacs, les combis étaient restés à 15 km de la zone de natation, quoi. Et donc en fait on a eu nos combis mais à 5 minutes du line-up, tu vois, de la présentation des athlètes. C'est un truc, si t'as pas ta combi, tu nages sans combi, mais tu sais que c'est pas... Enfin, c'est loin d'être optimal, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu vas sortir dernier, quoi. donc il faut rester détendu, J'ai eu aussi une expérience à Abu Dhabi pour ma toute première WTS.
Ouais.
J'avais oublié d'acheter du talc, en fait. Tu sais, on a du talc pour mettre plus facilement nos chaussures, pour pas avoir d'ampoule et tout ça.
Ah, c'est pour les pieds, c'est pas du tout pour le. Non. La combi?
Non. C'est vraiment pour éviter les frottements.
Je confonds les deux.
La combi et tout ça. Ouais. Mais par contre, on met du talc dans nos chaussures pour les enfiler rapidement, pour qu'on n'ait pas de frottement au niveau des pieds et tout ça.
Ouais.
Et donc, je m'étais ramené sans mon talc sur cette compète. Et donc je me suis dit, je vais aller l'acheter, en fait. Et je vais l'acheter le matin de la course. On va faire un petit ride pour se réveiller avec les gars. On va repérer le circuit et tout ça. On galère un peu à trouver le circuit parce qu'il fallait rentrer sur le circuit de F1. Mmh. C'était tout un labyrinthe et tout. Au lieu de rouler une demi-heure, on roule déjà une heure, quoi. Puis à la fin de cette heure-là, moi, je me dis, je vais aller acheter mon talc. J'ai cru voir un centre commercial pas trop loin. Donc j'y vais en vélo. Je me retrouve, en fait, sur l'autoroute, sur une quatre voies, en fait. Enfin, vraiment une route énorme, interdit au vélo et tout. Ouais. Je me retrouve sur la bande d'arrêt d'urgence. Je prends la première sortie, déjà un peu flippant, le truc. Je vais acheter mon talc dans le centre commercial. Et je regarde l'heure, je me dis, mais là, en fait, il est l'heure de manger, quoi. On est 3h30, 4h avant la course. Donc je m'achète une barre. Je mange cette barre en vitesse en repartant. C'était une barre 100% cacahuète, en fait. Ouais. Un truc pas du tout digeste. Je la recrache vite. Je me dis, mais t'es vraiment con et tout. Je rentre vite en vélo. On avait un scientifique qui nous avait recommandé de rester au frais vraiment au maximum le matin de la course pour pas surchauffer parce que c'était vraiment caniculaire là-bas.
Ouais, il fait chaud, ouais.
Et moi, ça faisait 1h40 que j'étais sur le vélo. J'avais plus d'eau. J'étais en surchauffe et tout. J'avais pas mangé alors que le départ approchait. Je rentre, mais avec mon talc. J'avais mon talc. C'était vraiment le truc hyper important, quoi. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai écouté du reggae jusqu'au départ. Et en fait, j'ai fait une super course. Je suis parti en échappée avec Vincent, avec Gomez.
Attends, tu fais troisième, non, sur
c'est non, ça, là, j'avais fait onzième.
Ok.
Et c'était un format olympique en plus, donc bien long pour un. J'étais quand même plus jeune, quoi, à l'époque. Et donc c'était un format qui était quand même un peu long pour moi, quoi. Ouais. Et donc voilà, je suis resté calme malgré la situation, mais complètement un peu grave quand même, tu vois, le truc vraiment à pas faire, quoi, le matin de la course. J'avais perdu une énergie folle, j'étais en surchauffe, hein, voilà.
Ouais.
Et donc tout ça pour dire que je sais plus pourquoi on parlait de ça à la base.
Je te demandais, est-ce que tu visualisais aussi tes matinées
Ouais, voilà, tout ça pour dire que c'est important d'anticiper un peu tout ce que tu vas faire, même le matin de la course, tu vois, pas juste ton échauffement et tout, mais la préparation de ton sac, l'heure à laquelle tu vas manger, mais de manière sûre, quoi. Parce que tu peux, faut toujours prendre de la marge, faut toujours être un peu en avance par rapport à ce que tu as prévu, parce qu'il y a toujours justement des gros imprévus comme ce que je viens de raconter, quoi.
Bah écoute, merci pour l'anecdote. Je sais pas si tu l'avais déjà raconté à droite à gauche, mais celle-là, elle vaut son petit pesant de cacahuète.
Justement.
dont il ne faut pas abuser les matins de course. Mais ouais, écoute, merci beaucoup pour ces anecdotes, puisque c'est des pépites, tu vois, tu le vois pas, et effectivement, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Et tu vois, ça montre quand même un exemple sur la visualisation, c'est que ça peut paraître chiant. Pour certaines personnes, c'est difficile au début de s'y mettre, de se plonger, tu fermes les yeux, tu essaies de repenser à la liste de tous les trucs qu'il doit faire, c'est pas hyper naturel. Certains ont un peu l'impression de perdre leur temps, mais plus tu vas y mettre des détails, plus tu vas y rajouter des étapes, plus tu vas effectivement t'immerger dans le truc, plus derrière le résultat il est surpuissant. Écoute, quand on voit tes résultats du moment, je pense qu'on peut pas dire le contraire. T'es un bon ambassadeur du truc, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah c'est important de. En fait, moi, je pense que j'en faisais déjà avant tout seul, enfin inconsciemment, de la visualisation. Mais par contre, je visualisais justement les bonnes choses à faire avant une compétition. Je visualisais ce que dans l'idéal, ce qui se passerait. Voilà, j'étais toujours dans la conséquence, le résultat,
Ouais.
Et pas du tout dans, en fait, non, attends.
Dans le process.
Dans le process, dans l'instant présent, dans le geste que je veux mettre en place. Et en fait, voilà, je faisais de la visualisation, mais le truc, ça me faisait monter à 200 pulses dans mon lit parce qu'en fait, je m'imaginais en train d'aller gagner la course et tout ça. Donc c'est pas interdit, tu vois, de le faire.
Bien sûr.
Mais par contre, je m'imaginais gagner la course, mais par contre, si je me demandais, mais attends, comment je me suis vu aller jusqu'à la ligne d'arrivée? En fait, je sais même pas. Je suis pas concentré sur ce que je veux mettre réellement en place. Ce que je veux vraiment, c'est gagner la course, mais je sais pas comment y aller, tu vois. Donc en fait, il y a tout un tas de petites étapes à mettre en place et à visualiser justement en amont de la course pour arriver jusqu'à ce résultat-là. Mais prendre la finish line en premier, c'est juste le résultat de l'enchaînement de toutes ces petites actions à faire parfaitement,
ouais,
quoi.
Exactement, ouais. Ouais, apprendre à chérir le processus, le protocole et toutes les étapes qui vont te faire permettre d'atteindre nos résultats. Apprendre à les apprécier, les ressentir, les refaire pour justement les associer aux résultats, quoi.
C'est ça.
Mais écoute, passionnant. Là, tu me régales, comme tu sais que je suis un peu fan de prépa mental. Bon, on a parlé d'Abu Dhabi. Il y a eu une super saison jusqu'à maintenant, là. Abu Dhabi, ça va être particulier. Tu l'as dit, c'est sur une piste de F1, tu connais déjà un petit peu. Je me souviens plus du climat qu'il va faire.
Ouais, c'est très chaud, c'est le désert, donc c'est chaud et sec.
Ouais, ça a beau être mi-novembre.
Ouais, c'est fin novembre, mais c'est là, enfin, il fait vraiment très chaud là-bas. Ouais.
Ça vous a rallongé votre saison bien comme il faut, ouais. Aussi, parce que normalement,
l'étape devait être un mois avant, en fait, et donc, entre-temps, le calendrier a légèrement bougé avec l'ajout de l'étape des Bermudes.
Okay.
L'étape de Sardaigne qui n'était pas prévue cette année.
Okay.
Donc voilà, on a dû revoir un peu les plans. Par exemple, j'ai fait des mini coupures dans cette année, des 3-4 jours des fois de repos pour donc pas forcément du repos total, mais où j'ai légèrement coupé aussi dans la tête parce que justement on a commencé en mars et on va finir je vais finir début décembre.
Ouais.
Donc tu vois, c'est important de segmenter un peu la saison pour arriver jusqu'à Noël presque. Maintenant, on va finir à Noël. Non, mais voilà, pour finir très tard avec encore de la disponibilité mentale et puis de la fraîcheur physique pour aller claquer un gros résultat à cette période-là de l'année. Ouais.
Ok. Et du coup, s'il fait trop chaud, comment est-ce que ça se travaille? Je suis curieux d'avoir ta réponse parce que forcément, tu vois, j'ai regardé le triathlon à Rio, j'ai regardé à Tokyo. On sent que ça vous affecte, tu vois, fortement. La pensée qui me vient, c'est Vincent ou tu vois qui a un peu craqué, tu vois, notamment sur la chaleur. Je pense, en tout cas de ce que disent les présentateurs télé et puis de ce qu'on ressent un peu toi. Comment est-ce que ça se bosse, tu vois, ce type de climat pour aller courir sous 30 degrés qui sont pas les climats les plus faciles, quoi.
Ouais, en fait on va,
parce que c'est sec, c'est
ouais, en fait on va, faut c'est clair qu'il faut pas se ramener 3 jours avant la course sur place, sinon ça fait un gros choc pour l'organisme. Et donc voilà, nous on va aller sur place 2 semaines avant la course pour vraiment être acclimaté parfaitement pour refaire nos séances de rappel déjà sur place avec ce climat-là. Et après, il y a tout un tas de petites choses à mettre en place pendant la course, enfin avant la course et pendant la course. Tous les trucs de cooling, par exemple. Donc, tout mettre en place pour garder une température corporelle assez basse jusqu'à l'arrivée, quoi, jusqu'au dernier push, tu vois, pour aller... pour aller faire le finish de course. Et donc c'est tout des, c'est, faut que ça devienne des réflexes. À ton échauffement, il faut porter les cryovestes, tu vois, pour rester au frais, on va dire. Faut pas se déshydrater, faut avoir la bonne dose d'électrolytes dans tes boissons. Il faut faut pas louper un ravito à pied, faut bien se mouiller et tout ça. Ouais. Et c'est toutes des choses qui se bossent en amont parce que tu prends pas par exemple le même nom, les mêmes quantités de gel quand il fait 40 degrés que quand il fait 20 degrés où t'as, enfin voilà, tu peux pas te ramener sur des courses aussi spéciales sans préparation spécifique. Et je pense que notamment pour les jeux et sur le test event de Tokyo l'année d'avant, enfin deux ans avant, j'étais clairement, enfin pour ma part, j'étais clairement pas prêt à des conditions comme ça, quoi.
Ouais.
Tu vois, sur les jeux, on s'est ramené à peine 4 jours et demi avant la course, enfin 5 jours avant la course là-bas sur place, avec un gros voyage, un décalage horaire, des processus d'entrée sur le territoire, qui fatigue, enfin on a passé 7 heures à l'aéroport là-bas une fois sur place.
Vous êtes arrivé que 5 jours avant la course?
Ouais, à cause des protocoles Covid, en fait. Okay. On n'a pas pu aller.
Et ça, c'est pour tous les autres athlètes, j'imagine?
Non, il y a des pays qui ont réussi à trouver des solutions là-bas sur place, mais nous on n'avait pas de garantie, en fait. On avait prévu de faire un stage d'acclimatation justement dans la banlieue de Tokyo, où on était allé pour le test event 2 ans avant. Donc on était allé repérer ça. Et en fait, un mois avant le départ, les autorités locales nous ont dit, dans cette structure, vous pourrez venir, mais par contre, vous sortirez pas de votre chambre. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se ramène direct au village et tout ça? Donc on a fait avec les moyens du bord. Mais clairement, moi, je veux pas trouver des excuses sur ma contre-perf de Tokyo, parce que la principale raison de mon échec là, c'est que j'étais clairement fatigué, je suis pas arrivé dans un très bon état de forme sur la course, mais un deuxième point sur lequel j'ai vraiment identifié, c'est une arrivée au Japon, mais très très tardive, quoi. Ouais. Avec un climat local qui est spécial, avec un décalage horaire.
Mais il y a quoi? Il y a 10-12 heures avec le Japon, facile?
Je sais plus combien il y a, mais en tout cas, on avait une course qui était très tôt le matin. Donc, on avait le décalage horaire plus, en fait, le jour de la course, s'est levé à 3 heures du mat. Tu vois, c'est pas seulement le décalage horaire avec le Japon. On a dû gommer en quelques jours tout ça, plus un nouveau climat à appréhender, même si on s'y était préparé un peu avant de partir sur place, quoi.
Enfin, en 5 jours, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas être dans les conditions idéales.
Après il faut pas se cacher derrière tout un tas d'excuses. Par contre, il faut pas refaire les mêmes erreurs dans le futur, quoi. Et c'est vrai que j'ai mis vraiment du temps à digérer cette course là parce que, tu vois, pour rien te cacher, j'ai visualisé la course la semaine dernière, juste avant d'aller en Sardaigne. J'étais en train de courir sur le tapis roulant, donc je me suis dit, tiens, je vais voir comment le Norvégien a fait, en fait, pour se débarrasser d'Alexis, là, le Britannique, parce que cette année, je suis en bagarre avec l'anglais, justement. Donc, je me suis dit, tiens, je serais curieux de voir comment il l'a attaqué, en fait, parce que je l'avais même pas regardé la course des jeux, j'étais dégoûté quand tu t'entraînes, autant pour passer pour un peintre à l'arrivée, j'étais trop déçu de moi-même, en fait. Je m'étais beaucoup investi. Il y a beaucoup de personnes qui avaient investi aussi du temps et, enfin voilà, de l'énergie sur ce projet-là pour moi, et j'ai connu vraiment un gros échec. Et je pense que aujourd'hui aussi, je bénéficie de ce rebond, en fait, qui a suivi cette contre-perf, c'est que je suis motivé comme un cadet parce que j'ai la dalle, quoi. Je suis trop motivé pour bien faire.
Puis t'étais un peu cramé, non, je pense, au moment des jeux.
Ouais, carrément.
Physiquement, ça se voit que t'es en creux de forme, quoi. Ton pic de forme a dû tomber quelques semaines avant et.
Bah, juste après, en fait.
Ah, il est tombé juste après.
Ouais, parce que je fais mes deux premiers podiums.
Ah, mais ouais, c'est vrai. C'est en fin de saison.
Au Canada, vraiment 2 semaines après, quoi.
Ouais.
Parce que je me suis reposé et que j'ai bénéficié de tout ce travail qu'on avait fait avant en amont des jeux. Donc,
mais t'as pris, je pense, tellement en expérience, tu vois, sur le calibrage d'une saison, d'avoir justement un creux comme ça et puis après un super pic.
Ouais. Top. Donc voilà, on apprend, mais c'est sûr que quand tu te prends une claque comme ça, ça réveille un peu, par contre.
Ouais, mais tu m'étonnes. Bon, bah écoute, Écoute, moi je suis sûr que tu auras engrangé assez de confiance et assez d'expérience pour la petite fête de quartier qu'on organise dans notre pays.
La course aux saucissons là, ouais.
Ouais, ouais c'est ça, ouais, ouais. La course à l'échalote avec une bouteille de pinard à l'arrivée.
Ah cool. Ouais.
Donc je suis sûr que vous serez prêts, vous serez tous à bloc et que ça sera plus facile à la maison. Ce sera plus facile à la maison que effectivement à Tokyo, Yokohama ou Abu Dhabi qui sont ça doit être plus compliqué quoi.
Bah après c'est les mêmes conditions pour tout le monde donc
oui bien sûr.
Donc voilà quand on va à Yokohama enfin voilà moi j'ai déjà fait des belles courses aussi là-bas, j'ai fait je crois trois top 5 à Abu Dhabi sur les dernières années donc c'est des courses qui me réussissent bien.
Ouais.
C'est vrai que c'est toujours mieux de se présenter sur une course où on a déjà vécu des belles émotions, où on sait qu'on est en confiance sur ce circuit là. Ouais. Où on a des bons souvenirs mais voilà, faut pas le prendre pour acquis. Je sais que il faut repartir dans ce schéma là avant la grande finale d'Abu Dhabi, là, faut que je m'acclimate très bien, faut que je respecte tout un tas de trucs pour arriver à faire une perf le jour de la course, quoi.
Ouais. Mais tous les curseurs de la performance, quoi. Donc cool. Mais écoute, les auditeurs, on va dire aux auditeurs d'aller suivre tout ça de près. Il y a moyen qu'il y ait une grosse perf qui se prépare en tout cas. Trop bien. Du coup, peut-être après, t'as peut-être prévu les vacances pour après justement. Cette super belle saison, tu sais déjà un peu ce que tu vas faire pour.
Ouais, en fait, on va donc avec ma copine, on va partir tout de suite après Abu Dhabi. On va aller à Daytona en Floride.
Ok.
Pour une autre compétition.
Ouais.
Et donc, ça sera la dernière de la saison et ça sera un format sans drafting.
C'est un Alpha Ironman, non, Daytona?
C'est un peu plus court, donc c'est une distance un peu intermédiaire.
Ok, oui, pardon.
Mais ouais. c'est sur un anneau de NASCAR en fait, donc c'est vraiment particulier. C'est une course aussi où il fait vraiment très chaud en Floride.
Pourquoi tu vas là-bas? Il y a quoi à aller chercher?
En fait, je vais retrouver des gars du longue distance.
Ouais.
Et j'ai envie d'aller me confronter un peu à ces gars-là pour voir où j'en suis. J'en ai fait un en début de saison, ça s'est bien passé.
Ouais.
À Lanzarote. Et c'est aussi un effort en fait que j'affectionne particulièrement sur un vélo de chrono. Voilà, ouais. Moi j'adore.
Les prolongateurs, tu kiffes?
Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que je vais essayer d'aller me faire plaisir plus là-bas sans trop de pression, mais avec beaucoup d'envie sur ce format-là. Et puis après, on va rester soit en Floride, soit à côté au Mexique pour un petit peu de vacances bien méritées.
Bah oui, clairement, il le faut. Mais écoute, ouais, je suis impressionné du fait que effectivement tu t'ouvres de plus en plus à des formats un peu plus longue distance. Tu vois, vous avez déjà tellement de courses dans l'année parce que il y a comme on le disait tout à l'heure, entre les grands prix WTS, la Super League, les championnats du monde, toutes les courses et tout, ça fait un paquet, donc que tu trouves encore ce plaisir et cette motive pour aller faire des tours de piste de circuit, NASCAR, ouais. il faut en vouloir quoi. Donc c'est
ouais, ben bah en fait ça, je pense qu'on aime vraiment la compétition et la confrontation avec les autres et ça c'est clairement un petit challenge, c'est un petit peu l'inconnu parce que c'est pas un territoire que je maîtrise très bien à ce genre de distance, enfin pas encore très bien par rapport à d'autres, et donc voilà, je me mets un petit challenge pour finir la saison sur quelque chose que je connais, que je maîtrise pas totalement quoi.
Okay.
C'est aussi un truc qui m'excite un peu, tu vois, ça va. Je sais pas trop où je mets les pieds quoi, donc je sais pas si je vais me faire complètement tordre sur le vélo ou si si ça va, je vais réussir à lutter contre avec les autres quoi.
Ok. Tu sais, s'il y a du vent, t'as le droit aux roues
lenticulaires.
Aux roues pleines,
ouais, il y a le droit aux roues lenticulaires. Donc,
okay.
À Lanzarote, il y a des années où t'as pas le droit.
Ouais, il y a trop de vent.
Ouais, il y a trop de vent. Là, en l'occurrence, il y avait le droit aux lenticulaires. Moi, je l'avais pas sur cette course.
Ok.
Il y avait quand même pas mal de dénivelé, donc voilà, c'était.
Ouais.
C'était pas non plus le truc.
Lanzarote, c'est pas conseillé non plus.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, le circuit de NASCAR, ouais, il vaut mieux avoir une lentille. Ouais.
Ok. Bon, bah, cette fois, des nouvelles sensations, plein de nouvelles choses, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, j'utilise aussi ces formats pour, pour bosser plein d'aspects comme l'aérodynamisme,
ouais.
Que après, enfin, dont je peux me servir après sur des distances plus courtes.
Ouais.
Il y a la nutrition aussi qui est un facteur vraiment à maîtriser sur les formats plus longs.
Ouais.
Et si je les maîtrise sur un format plus long, bah en fait, je les maîtrise encore mieux sur le format d'en dessous.
Ouais.
Donc voilà, après. Quand tu fais un alpha Ironman, que tu te détruis complètement les jambes, enfin musculairement, tu finis, cassé en deux. Tu redescends sur un format olympique, musculairement, t'es solide. Voilà, tu peux encaisser le truc et c'est plus les jambes qui vont lâcher en premier, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vais chercher. Et c'est pas anodin d'aller faire des alpha Ironman parce qu'en fait, c'est des qualités de résistance musculaire qu'on cherche à travailler pour du plus court, quoi.
Ouais, bah tout à fait, ouais, tu vas chercher un effort un peu plus dur, plus long et qui te rend la tâche la plus facile, quoi.
C'est ça.
Ouais. Tu croises beaucoup. C'était une des questions qui avait été posée. Si tu croisais justement les entraînements, si tu vas faire chercher un peu quelques autres sports, là du coup à l'intérieur de la discipline, tu vas faire d'autres types de courses, mais du coup tu vas chercher d'autres sports.
Ouais, bah c'est vrai, quand j'étais sur Échirolles, on faisait pas mal de rando quand même avec les copains là. Et puis dans l'hiver, voilà, dès que je repasse dans le coin de chez mes parents là en Isère, en Savoie,
ouais.
je monte pas mal skier en ski de fond avec mes potes cyclistes là du coin,
okay.
Sur Chambé et tout ça, et donc voilà, un peu de ski de fond, un peu de j'avais une mini coupure, j'ai fait un petit peu de surf dans les Landes,
okay.
Donc voilà j'aime bien tout ce qui bouge, mais tout ce qui est surtout dehors, quoi.
Ok. Bon bah écoute, trop trop bien. Dernière petite question, et après j'ai des questions très courtes, on peut répondre un peu du tac au tac, mais je me demandais, ça aide d'avoir une petite amie, tu vois, qui est aussi sur le circuit. On le voit beaucoup hein, dans les triathlètes, souvent ça s'assemble. Mais c'est, il y a des facilités, tu vois, pour se comprendre, pour sur de la logistique, pour de l'entraînement, pour mutualiser certaines choses et tout. C'est à quel point c'est un avantage, en fait?
Bah en fait, c'est tout d'abord de la compréhension, en fait, dans mon quotidien, dans ma pratique, en fait. J'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi le dimanche matin je vais faire 5 heures de vélo. J'ai pas besoin de négocier pour sortir à l'entraînement le week-end et pour pas aller faire un concert le samedi soir, tu vois.
Ah, au contraire, je suis.
Ouais, voilà, on est un peu sur le même rythme de vie, et ça c'est quand même primordial pour
ça aide à l'autodiscipline.
Bah
aussi,
sur du long terme, voilà, ouais. on peut pas être aussi autant en décalage.
Ouais.
Donc il y a déjà ça, et puis après. La première à m'avoir fait de la prépa mentale, c'est clairement ma copine, parce que voilà, elle a du caractère et elle m'impose des fois des choses, elle met le doigt des fois sur des sujets concernant ma pratique, et puis mes points forts, mes points faibles surtout, et elle m'oblige en quelque sorte à, enfin, disons qu'elle m'incite à faire des changements des fois que j'aurais eu plus de mal à faire tout seul, et des changements qui m'ont révolutionné un peu mon niveau, quoi, ma pratique. Voilà, elle m'a fait rencontrer des gens qui aujourd'hui sont vraiment des personnes piliers dans mon projet, comme voilà, elle me fait travailler avec un Italien qui me pose sur mon vélo. Donc, okay. Il me fait la position sur le vélo.
Ouais,
c'est un meilleurs.
Un posturologue, on appelle. Non, c'est.
Ouais, alors c'est un. Nous, on appelle ça du bike fitting. Donc,
ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça, quoi.
Qui va calculer les angles.
Voilà,
qui
c'est ça. Qui
position,
va.
Qui déplace la selle.
Qui va prendre en compte le fait qu'on fait. On fait pas seulement du vélo, donc il faut aussi économiser certains muscles pour la course à pied juste derrière.
Ouais.
C'est
un vrai taf. Hein,
ouais, voilà, c'est ça. C'est un vrai taf, et en fait, comme pour la. Enfin, j'en parlerai après, mais. Comme pour la préparation mentale, c'est des domaines en fait où je serais pas allé tout seul, parce que peut-être par pudeur pour la prépa mentale, j'avais du mal à m'ouvrir complètement à quelqu'un sur certains sujets, et puis par je sais pas, parce que je me disais je peux le faire moi-même, tu vois, la position sur le vélo, mais non, en fait, comme t'as dit, c'est un métier à part entière, et le gars, c'est un des meilleurs du monde. Et aujourd'hui, le jour où il m'a fait pour la première fois mon positionnement sur le vélo, j'ai réappris à faire du vélo, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, avoir du, ouais, de la puissance sur, sur le vélo, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment une personne ressource. Elle m'a fait rencontrer sa nutritionniste, qui est pareil, quelqu'un de, d'hyper compétente, une Italienne aussi. Et j'avais des gros problèmes d'assimilation des nutriments, en fait, ouais, d'hyperperméabilité de la paroi intestinale. Et du coup, j'avais beau manger des assiettes, des montagnes, en fait, ouais, tu vois, de riz et tout ça, en fait, je récupérais aucune énergie de tout ce que je mangeais.
Okay.
Et donc,
comment tu l'as résolu, ça?
En fait, j'avais l'intestin qui était vraiment inflammé, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc il a fallu rééquilibrer.
Alcalin, du coup, peut-être.
Voilà, c'est ça. Il a fallu rééquilibrer la balance, en fait, parce que j'étais clairement ça brûlait, je pense.
Ok.
Et voilà, je mangeais déjà plus de gluten à l'époque.
Mais les triathlètes, c'est normal, enfin, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais.
Et donc, voilà, j'allais aux toilettes 10 fois par jour. C'était l'enfer, quoi. Puis surtout, j'étais en hypoglycémie. Dès que j'allais faire plus de 3 heures de vélo, je finissais en hypo, même en mangeant ce que je voulais sur le vélo, quoi.
Ouais.
Donc, le jour où, pareil, elle a réussi à me remettre dans de bonnes dispositions au niveau de mon ventre, quoi. J'en parle parce que ça a été vraiment un des tournants de ma petite carrière, entre guillemets, quoi. C'est que j'ai redécouvert ce que c'était que d'avoir de l'énergie, tu vois, dans l'enchaînement des journées d'entraînement, dans l'enchaînement des semaines. Je récupérais 10 fois mieux, du coup, parce que j'arrêtais de faire des hypos à répétition tous les jours.
Ouais.
Et donc voilà, j'assimilais vraiment tous les entraînements que je faisais parce que j'avais de l'énergie, quoi, tout simplement. Ouais. Donc voilà, tout ça, c'est des choses concrètement qu'elle m'a apporté.
Ouais.
Mais après, il y a tous des petits moments de vie au quotidien qui que je pourrais pas que je pourrais pas vivre avec quelqu'un, entre guillemets, de non sportif ou de non initié à ce milieu-là, tu vois, du monde professionnel, de sportif professionnel. Donc voilà, ouais, elle me force à faire des choix, des fois, que je ferais pas tout seul. Et après coup, je me dis, j'ai carrément pris la bonne décision. Et puis, ouais, je pense qu'on a tous besoin d'une femme pour nous guider dans la vie, parce qu'on est quand même un peu têtu. Et des fois, il faut nous remettre dans le, nous ouvrir les yeux sur certains sujets, quoi.
Ouais, bien sûr, on a tous besoin d'un partenaire ou d'une partenaire de vie, c'est sûr.
C'est ça, ouais.
Elle, dans l'autre sens, elle doit. Je suis sûr qu'elle me dirait autant de qualités que tu viens de lui en.
Et pourtant, c'est vraiment. Autant moi, je suis vraiment tranquille et tout ça. Elle, c'est l'Italienne, la pile électrique. et donc voilà, il faut apprendre à trouver un équilibre entre tout ça, mais.
Okay.
Mais voilà, ça marche pas mal.
Bon, écoute, si jamais elle a envie de se frotter à l'exercice du podcast, c'est avec grand plaisir.
Allez, je fais le podcast, moi. Ciao.
Mais carrément. Écoute, hyper cool d'apprendre tout ça et de voir comment t'as rebondi et comment t'as testé ces nouveaux trucs, ces nouvelles disciplines, pardon, je dis trucs là, qu'est-ce qui m'arrive, c'est la fin du podcast, je suis fatigué.
C'est ça.
Mais trop bien. J'ai quelques questions pour la fin. Il y en a trois que j'aime bien poser. Si tu pouvais revenir en arrière, justement. Et te dire quelque chose au Léo qui vient de rentrer au Krebs, qui découvre le haut niveau, qui va commencer à aller se frotter sur des compètes internationales. Si tu pouvais te dire un truc à ce moment-là, tu vois, à ce petit Léo, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Je pense que je lui dirais change rien, parce que je pense que j'étais dans le bon état d'esprit à ce moment-là de mon évolution dans le milieu du sport. Et c'est vrai que j'entends souvent des entraîneurs demander à leurs athlètes qui sont très jeunes, leur demander mais c'est quoi ton objectif, toi, dans le triathlon ou dans d'autres sports, quoi. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui veulent entendre moi je veux être champion olympique, en fait. C'est vraiment le truc que tout le monde veut entendre. C'est de l'ambition, en fait, tu vois. C'est si t'as pas cette ambition d'être champion olympique, arrête, en fait, c'est mort, quoi.
Ouais.
Et moi, clairement, j'étais à des années-lumière de répondre ça, parce que je trouvais que c'était complètement décalé par rapport à ce qui restait à accomplir pour atteindre ce niveau-là, quoi. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, alors que je fais des podiums sur les séries mondiales, j'ai cet objectif dans la tête, mais je sais qu'il y a encore un fossé énorme à combler, voilà, des énormes domaines à bosser pour arriver à être champion olympique. Donc c'est vrai que quand j'avais 15 ans et que j'entendais des copains qui disaient « bah moi je veux être champion olympique », je me disais « mais en fait tu te rends pas compte ouais. tout ce qui reste à faire, tu vois ». Enfin, c'est comme quand on disait tout à l'heure en fait c'est mettre la charrue avant les bœufs. En gros, tu veux être champion olympique, mais par contre qu'est-ce que tu t'es prêt à mettre en place entre-temps pour y arriver, en fait. Et moi j'étais plus dans allez, aujourd'hui je bosse ça, demain j'aurais peut-être progressé là-dessus, donc je bosserai autre chose. Ouais. Et on avance petit à petit comme ça, parce qu'en fait l'entraînement, c'est tellement un procédé, enfin un processus qui est très long et qui demande des années de pratique, que annoncer je veux être champion olympique, c'est, en fait c'est complètement décalé, quoi.
Bien
tu
sûr.
Vois, donc si je vois un petit jeune qui commence à avoir un bon niveau et tout ça, je lui dirais bah, franchement continue, bosse ce que tu peux bosser au quotidien, voilà, c'est des petites choses à mettre en place au quotidien, mais surtout ne te prends pas la tête avec des choses que tu vois, tu t'imagines même pas ce que ça veut dire, quoi. Et même moi, encore aujourd'hui, j'en suis loin, tu vois. Donc voilà, je pense que le truc, c'est de vivre plutôt au jour le jour, et encore plus quand t'es jeune, que qu'il te reste une montagne de choses à faire. Il vaut mieux pas trop regarder trop loin, parce que sinon tu t'aperçois que t'as l'Everest à gravir, quoi.
C'est clair.
En fait, avant d'arriver au sommet. Donc il vaut mieux se dire bon, attends, regarde, aujourd'hui j'avance de tant de pas, tu vois. Mais j'avance en tout cas.
Mais ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, parce que j'avais demandé à Dorian c'est quoi la plus grosse force de Léo, tu vois. Et il me dit écoute, je pense que sur le circuit, c'est le mec le plus qui a la progression la plus constante et la plus régulière de tout le circuit, tu vois. Et chaque année, il progresse, et chaque année, il continue de progresser, tu vois. Et j'avais lu un truc justement sur ces personnalités-là qui arrivent à progresser de manière linéaire presque, dans le bon sens du terme en tout cas, tu vois. C'est cette capacité à se fixer des petits objectifs en permanence et de toujours, tu vois, de faire des petits objectifs avec des étapes intermédiaires bien calibrées, et c'est clé, quoi. C'est clé dans la prépa, et je pense qu'effectivement, quand t'as 18 ans et que tu te dis je veux être champion olympique, bah c'est comme tout à l'heure sur la visualisation, ça, c'est que tu t'imagines juste le rêve, mais tu oublies tout le
alors process, dans certaines disciplines c'est peut-être possible, tu vois, parce qu'il y a il y a certaines disciplines qui t'arrives à maturité beaucoup plus jeune. Où tu peux avec beaucoup de travail d'un coup et des prédispositions hors normes, arriver au plus haut niveau mondial en un ou deux ans, je sais pas, il y a sûrement des disciplines où ça arrive.
On a parlé de la gym, les filles, elles sont très très jeunes,
souvent elles en font depuis qu'elles ont 4 ans quand même, mais,
c'est vrai, il faut préciser. Mais
non, mais en tout cas, c'est vrai que moi je suis plus de ce profil-là, mais par contre, j'envie aussi une qualité, tu vois, de Dorian, c'est que lui il va pas avoir de complexe, tu vois, dans sa tête, je pense que
il a l'ambition,
il se dit je suis le meilleur, et tu vois, et là je vais gagner la course aujourd'hui, tu vois.
Ouais.
Et mine de rien, c'est quelque chose que que je bosse avec ma prépa mentale, et que j'ai pas ça, enfin je l'ai pas naturellement, et je sais que voilà, Dorian lui il a aucun doute sur la ligne de départ, sur le fait qu'il peut gagner la course.
Okay.
Donc des fois il va pas la gagner, mais des fois ça lui permet de faire des coups d'éclat, et c'est une des qualités que j'essaye de développer chez moi, que j'ai pas du tout à la base, en fait.
Te dire c'est possible, quoi.
Ouais, voilà, j'ai pas peur des autres, parce qu'en fait jusqu'à l'année dernière j'avais carrément un complexe d'infériorité par rapport à mes concurrents, malgré le fait que je les avais battus déjà 15 fois.
Ouais.
Je me disais, mais en fait, je vais faire 15e de la course, là. parce que je suis pas, enfin, je suis pas du tout le meilleur là.
Ouais.
Et donc voilà, là je pense que j'arrive à passer un peu au-delà de ce petit complexe là, d'être un peu plus libéré et d'avoir confiance en mes capacités pour aller gagner la course. Okay. Mais c'est tout un processus qui est long en fait, de casser ces barrières qu'on peut se mettre dans la tête quoi.
Ouais, bah je comprends bien. C'est un des schémas un peu classiques quoi que tu peux avoir en prépa, mais c'est hyper intéressant de effectivement de voir à quel point vous êtes tous les deux différents et complémentaires quoi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ce qui fait que ça marche bien. Encore deux questions parce que je crois qu'elles sont arrivées ou j'ai rêvé. Parce que il y a du coup les deux champagnes qui sont partis courir. L'avant-dernière question que je pose, c'est est-ce que t'as un film ou un livre que tu recommanderais à tout le monde ou à tous les triathlètes, tous les sportifs pour que ils soient plus heureux ou qu'ils performent un peu mieux ou tout simplement pour passer un bon moment et rigoler quoi. Parce que c'était quoi tes sources d'inspiration récemment?
C'est vrai que moi je suis pas mal. Enfin, j'ai toujours grandi avec des idoles, tu vois, dans le sport. Donc ouais. Pas forcément juste en triathlon, mais c'est vrai qu'en triathlon, par exemple, j'avais des idoles comme Javier Gomez, un Espagnol, qui a été, je crois, 5 fois champion du monde en ITU, il me semble.
Ouais, ouais.
Je veux pas dire de bêtises, mais bref, c'est vraiment un des gros noms du triathlon.
Je crois qu'il a le record. Hein.
Ouais, il me semble bien, ouais.
Ouais.
Et donc en fait ce que j'aimais bien faire avec les copains quand on était plus jeunes et ce que je fais encore des fois aujourd'hui c'est regarder un peu des insides de certains des sportifs comme ça tu vois parce que tu découvres certains aspects de leur personnalité. Après souvent il y a beaucoup de enfin ils essayent de tu vois la prod ils essayent de vendre du rêve pour impressionner tout le monde et tout ça. T'as l'impression que les gars ils s'entraînent
ouais.
12 heures dans la journée.
Des machines,
il y avait une vidéo de Frodeno où le gars il courait 3 fois dans la journée, il nageait, il roulait ouais. Tu vois, il finissait la journée, il faisait nuit le soir quoi, tu vois, donc ouais. mais moi ça me faisait rêver et donc voilà, j'aime bien les petits inside, tu vois, les intérieurs sports, les documentaires un peu sur des sportifs. Ça okay. peut être Kipchoge, ça peut être. À un moment donné, je cherchais justement à progresser pas mal en natation, et donc mon entraîneur de l'époque ici à Boulouris m'avait prêté le livre d'Alexander Popov,
okay.
qui était un nageur incroyable. Il y a des années 95 ou 2000, il me semble.
Ouais, pour moi, c'est fin des années 90.
Ouais, il me semble. Et donc c'était un gars avec la technique vraiment parfaite. Et donc son livre, en fait, je m'étais immergé dans son monde. Et ça m'avait permis, de pendant une période, de passer un gros cap, en fait, parce que je m'étais glissé dans la peau d'un nageur.
Ouais.
Tout au long de son récit de sa biographie quoi.
Okay.
Et donc voilà, j'avais bien aimé le livre de Popov. En plus il faisait pas mal d'exercices de gym, il faisait des barres parallèles, des équilibres, enfin
ouais.
tu vois des exercices hors de l'eau en fait. C'était un athlète, pas seulement un nageur mais un athlète
complet,
même hors de l'eau, voilà, quoi. Très très complet quoi. Donc ça m'avait beaucoup inspiré, ouais.
Ok, bon bah écoute, trop cool. Je vais retrouver le livre et je mettrai le lien là dans la description parce que écoute, je connaissais pas du tout. Pourtant j'en ai lu des biographies d'athlètes de haut niveau et des bouquins sur le sport. J'en ai lu pas mal, mais celui-là j'avais jamais entendu parler. Donc merci de ta reco pour la nouveauté. Et la toute dernière, c'est de savoir quelle est la prochaine extraterrienne et le prochain extraterrien que tu me recommandes d'aller voir pour parler un peu justement parcours, mental, organisation, performance. Ça peut être des triathlètes, mais c'est pas une obligation. Mais j'aime bien aller voir les copains des copains, c'est toujours un peu plus sympa.
Eh ben, peut-être pour rester dans la team Cupra, là, peut-être un Renaud Lavillenie, s'il n'y est pas encore passé. Je pense ouais. qu'il a beaucoup à partager sur... voilà, moi en fait, je suis curieux de connaître... ce qui motive en fait un athlète comme Renaud, qui a une carrière, mais enfin une longévité dans sa discipline qui est incroyable, dans une discipline où c'est, enfin vu de l'expérience, vu de l'extérieur pardon, en tout cas c'est quand même un geste qui est très répétitif.
Ouais.
C'est enfin une phase de course et puis un saut. Et j'aimerais savoir ce que tu vois, ce qui l'anime, enfin au quotidien et sa façon de voir en fait la recherche du geste parfait, parce que clairement, enfin
ouais.
lui ce qu'il cherche c'est vraiment la course d'élan parfaite et puis le geste le plus parfait possible pour aller le plus haut possible.
Ouais.
Et donc j'aimerais bien savoir dans sa tête, tu vois, à l'entraînement au quotidien, ce qui l'anime,
ouais.
mais aussi toujours dans sa tête quand il est sur la piste. Dans quelles conditions il se met, quel est son schéma qu'il essaye de respecter, tu vois.
Ouais.
Si c'est quelque chose de très segmenté, où en fait il a tellement sauté de fois dans sa vie qu'en fait il essaie juste de lâcher les chevaux et ouais. sans trop se prendre la tête sur la technique, je sais pas, en fait ouais. ça m'intrigue beaucoup et ça m'intéresse beaucoup, hein, une discipline comme ça, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a des similarités avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur la natation, tu vois, où la natation, ouais, à l'entraînement t'es dans la recherche du geste parfait à chaque fois et tout, et puis le jour J tu lâches.
Mais je pense que c'est la quête, tu vois, de la quête du geste parfait, de la maîtrise de ce qu'on fait. Et ben dans une discipline par exemple comme Renault, enfin justement, ouais. faudra lui demander. Mais
j'ai je pense que c'est vraiment. J'ai pas eu Renault encore. Je dois avoir Romain Ménil aussi très bientôt. On discute avec Romain par SMS. Il y a des éléments de réponse avec Jean et je pense qu'il y aura d'autres éléments de réponse.
Parce que je pense que c'est tellement galvanisant de réaliser, même à l'entraînement, tu vois, un saut parfait, que c'est ça qui est recherche en fait, parce que c'est indescriptible. Mais pour quelqu'un qui, je pense, qui a jamais sauté. Qui a jamais pratiqué le saut à la perche comme moi, mais je pense que ils ont des émotions qu'on peut retrouver après nous quand on est en train de voler, tu vois, enfin quand on se sent pousser des ailes sur une séance à pied sur la piste, ou quand on sent qu'on est en train de mettre des watts dans la facilité, tu vois, en vélo. Et je pense que c'est encore plus galvanisant quand tu passes une barre que tu sais que t'as fait vraiment. T'as recherché ce geste parfait et tu l'as fait.
Ouais.
Et je pense que c'est la maîtrise du geste qui recherche peut-être. Donc, ouais, je serais vraiment intéressé de voir ce qu'il en pense.
Ça roule. Et une athlète, parce que j'aime bien avoir un homme et une femme pour respecter au maximum la parité. Y a quelqu'un à qui tu penses ?
Bah, j'aimerais bien connaître, tu vois, le parcours de Mathilde Gros.
Ok.
Parce que j'avais vu un reportage sur elle. Qui était arrivé sur la piste, enfin assez tard sur le cyclisme,
très
sur
tard,
la piste assez tard, et donc ses premiers tours de piste, comment elle a vécu ça, parce que c'est quand même vraiment quelque chose de particulier. J'ai fait un peu de piste, voilà, quand tu te retrouves attaché à des pédales avec, enfin sans roue libre, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, et avec des murs assez raides, quoi. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'elle aime aussi le cyclisme à l'extérieur, ou si vraiment sa passion et sa spécialité, c'est, enfin disons que sa passion, est-ce que c'est le vélo en général, ou est-ce que c'est vraiment le cyclisme sur piste, tu vois.
OK. Ouais. Eh ben écoute, j'ai eu la chance de rencontrer Mathilde, mais ça remonte maintenant, c'était il y a un an et demi. Je t'enverrai le podcast, tu verras, et puis je le mettrai. Mais trop cool, et effectivement si j'avais su, je l'aurais posé toutes ces questions là. J'ai pas toutes les réponses. Écoute, quasiment 2 heures de podcast. Je me suis régalé. J'ai pas vu le temps passer, genre 1 minute. Merci infiniment, parce que c'était vraiment cool. On a pu vraiment aller à fond dans plein de sujets et c'était trop cool. Et je pense que ça va énormément plaire aux auditeurs. Je vais peut-être faire 2 parties pour pas que ça soit trop riche, mais trop cool. Merci infiniment et puis à très bientôt, comme on dit.
Ouais, à bientôt sur les tapis bleus et sur les pontons de départ.
Vas-y, avec plaisir.
Salut.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.